Nous sommes mercredi 17 novembre 2021 et vous écoutez le Dojo Bar. Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Salut.
Et bonsoir Zergy, toute la fine équipe est là.
Bonsoir.
Exactement.
Au programme de ce soir, nous allons, puisque vous avez bien aimé, nous allons remettre une petite couche de GameCube. Hein. Tu l'as voulu, tu l'as eu, un grand coup dans ton cube.
Bon, c'est pas du tout pour dire qu'on n'avait pas d'idée, hein, évidemment.
Non, c'est pas du tout parce qu'il n'y a pas d'actu et qu'il n'y a pas d'idée. Hein, c'est vraiment pas du tout le cas, c'est juste qu'on a oublié 2-3 petits bricoles et...
Non, il y avait des oublis qu'il fallait rattraper.
Il y avait quelques petits trucs, je pense, remettre au bon endroit et dans le bon ordre. Voilà, on va aussi parler, c'est un sujet qui a animé un petit débat entre nous concernant les remasters. Qu'est-ce qui fait un bon remaster? Qu'est-ce qui fait un mauvais remaster? Qu'est-ce que c'est qu'un remaster? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme un remaster? Vous allez voir que c'est peut-être plus épineux que ce que vous aviez pensé. En préparant le truc, je m'étais dit, ah, c'est rigolo, il y a GTA 3 trilogie qui est sorti, peut-être que un petit sujet à faire là-dessus. Et puis en fait, finalement, quelques petites choses intéressantes à en dire. Voilà, mais nous allons commencer par notre traditionnel tour de table de l'actu. Je crois que Zergy était en mode très troll.
On va encore parler d'Activision.
De petits chouettes.
Ouais, oh, y a pas grand-chose à dire.
Effectivement, c'est très...
Tu veux que je commence, du coup?
Ah oui, vas-y. C'est Bobby Kotick, je te le laisse. Alors... Je sais que ça fait partie de tes petits kinks, donc je te le laisse.
Oh bah, faut pas... tu sais qu'on peut leur taper dessus, faut pas...
Ah oui, faut pas hésiter, hein.
Alors du coup, j'avais deux news. Il y a Ubisoft qui a décidé de se lancer dans ces saloperies de NFT. C'est le cancer, ce truc.
Sérieux?
Ah, mais c'est de pire en pire en pire, ce machin. C'est vraiment le cancer, effectivement.
Voilà. Et l'autre qui est un peu plus gros, c'est il y a Bobby Kotick qui est dans la sauce, parce qu'il a été découvert qu'il était au courant, en fait, des problèmes de harcèlement, agression, trucs chelous dans Activision. Et puis c'était dans Activision en général et pas que chez Blizzard.
Ah ah, donc il est dans la merde parce que si j'en crois...
Il n'a pas mis au courant le reste des directeurs machin truc là du conseil d'administration.
Ah oui, donc en plus, alors c'est plus grave que ce que vous pensez. Donc les lois américaines étant ce qu'elles sont, je suis pas un expert en la matière, mais il y a 2-3 trucs que je connais.
Alors attends, il y aura rien parce que les actionnaires ont dit non mais on le garde, il fait plein de trucs.
Alors dites-moi qu'il a menti au FBI.
Non, alors justement, le pire c'est ça, c'est alors cacher un truc au conseil d'administration, tu peux te retrouver devant la SEC, qui est donc l'équivalent de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Parce que normalement, des comportements machin, tout ça, t'es censé les dénoncer quand tu es au courant en tant que PDG, devant les actionnaires. Donc en fait, il va peut-être pas se faire choper parce que c'est un sale con, il va peut-être se faire choper pour mensonge par omission vis-à-vis de la SEC. Voilà, je vous rappelle que Al Capone n'a jamais été chopé pour trafic.
C'est vrai.
Machin, il a été chopé pour fraude fiscale. Hein.
C'est moche, hein. Mais je crois qu'il y a aussi un autre truc, c'est que c'est pas juste il a caché, c'est il est impliqué dans ces histoires aussi. Hein.
Alors s'il est impliqué, là, c'est encore une autre histoire, parce qu'il pourrait être responsable civil ou pénal en fonction de... Alors je crois qu'aux États-Unis, civil pénal, ça n'existe pas vraiment, si je me rappelle bien. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais donc il pourrait être impliqué là-dedans, ce qui fait que de toute façon, il sera obligé de démissionner. Hein. Ce qui est pas un mal. Il y aura un autre sale con qui prendra sa place, je vous rassure. Voilà, puis je pense qu'il aura, même s'il passe 2 ans en taule, il s'en remettra. Mais voilà, ça peut être intéressant parce que dès qu'on commence à toucher à la SEC, ça rigole beaucoup moins. Mais vraiment beaucoup, beaucoup moins. Quand quelqu'un saisit la SEC aux États-Unis, je peux vous garantir que tout le monde commence à faire dans son froc. Je sais pas si vous connaissez peut-être l'histoire un petit peu de l'Intellivision.
Non, pas du tout.
L'Intellivision Amico.
Avec je connais deux noms, mais
notre grand ami
croustillant.
Il y a du croustillant. Alors c'était pas prévu, hein, mais on va. Notre grand ami Tommy Tallarico, qui a un melon, mais alors de la taille de la lune maintenant à peu près.
Aussi le mec qui est Raoul.
C'est le mec du Video Games Live, c'est ça?
C'est possible, oui, c'est possible. J'ai pas le truc en tête, mais c'est tout à fait possible. Qui a donc alors en fait, Intellivision Amico lève des fonds auprès d'investisseurs privés. Donc ça, ça veut dire basiquement qu'ils vont aller ramasser du pognon des gens.
Mais la nouvelle Intellivision, alors, ok.
La nouvelle Intellivision, oui, l'Intellivision Amico. La toute nouvelle qui n'est pas encore sortie, mais qui devrait sortir dans pas si longtemps que ça, si tout va bien. Et le truc, c'est que en décortiquant les documents de la SEC, qu'ils ont donné à la SEC, tu te rends compte qu'il y a un certain nombre d'irrégularités, c'est-à-dire ce qu'ils vendent aux actionnaires n'est pas du tout ce pourquoi la société a été créée. Et là, il y en a deux ou trois qui sont en train de dire, les gars, c'est pas réglo. Je peux vous dire que côté Talarico, on fait beaucoup, beaucoup moins les marioles depuis quelques jours, parce que si t'as la SEC sur le dos, t'es bien dans la merde. Et vraiment bien dans la merde. Parce qu'eux, ils peuvent te faire fermer boutique, mais en deux temps, trois mouvements. Voilà. Donc encore une fois, je m'inquiéterai pas pour Bobby Kotick lui-même, civil, pénal, s'il est impliqué, écoute, c'est quand même son problème. Par contre, si la SEC se rend compte qu'il y a une irrégularité, là, c'est pas bon. Donc voilà, ça peut être intéressant à suivre. On va voir ce qui va se passer. Mecton, je vais parler de... Alors, comme tous les ans, hein, mais je te laisse parler de Desert Bus for Hope.
C'est ça.
C'est très important.
Donc, comme tous les ans, c'est l'association Loisirs Numériques, donc une très chouette association qui fait pas que ça, en fait. Qui fait plein de choses autour de... je vais pas dire la vulgarisation ni la démocratisation, mais des actions parallèles autour du jeu et toutes les bonnes choses qui peuvent en sortir. Donc typiquement, ils ont leur fil rouge toute l'année, c'est la bourse jeux vidéo, donc où ils essayent de lever des fonds pour financer les études de petits jeunes qui veulent se lancer dans des écoles de développement, en visant en priorité des jeunes issus de milieux, on va dire, défavorisés, quoi, pour leur donner leur chance, quoi.
Donc c'est
vachement bien. Il y a plein de choses, il y a des bourses aux jeux solidaires, tout ça. Et donc ce week-end, c'est le marathon caritatif du Desert Bus. Donc on rappelle que c'est le jeu le plus con et chiant du monde.
Qui n'est jamais sorti officiellement.
Qui n'est jamais sorti officiellement, ouais. Donc le principe,
c'est
de faire...
Qu'il ne soit pas en Sonic.
Et c'est vrai.
Mais qui devait sortir sur Mega CD.
Ouais, oui, oui.
Et qui est produit par deux hurluberlus qui font toujours de la télé aujourd'hui, qui me font toujours beaucoup marrer, qui sont Penn & Teller.
Ah, je savais pas ça.
Tu savais pas, je savais pas. C'est Penn & Teller.
Non, enfin voilà, le principe du jeu, c'est de faire des allers-retours dans le désert, mais en temps réel, quoi. Donc c'est vraiment chiant comme la mort.
C'est Las Vegas Sacramento en temps réel, je crois.
C'est ça, c'est
aller-retour avec un bus qui ne dépasse pas le 50 miles à l'heure et qui a tendance à tirer un peu sur la droite. Si
et qui tire à droite, exactement. C'est pour te maintenir éveillé.
Donc t'es quand même obligé de te maintenir un petit peu.
Et oui, donc tout ça, c'est plus c'est une excuse pour faire une longue émission de plusieurs heures, donc il va commencer vendredi 17h et terminer dimanche en fin de soirée. L'année dernière, ils ont été bien coincés par le Covid, mais finalement, ça a très bien marché à distance, très bien marché techniquement et en termes de résultats. Cette année, l'édition, elle se fait en mode hybride, donc des gens sur le plateau, comme ça se faisait dans l'ancien monde, et des gens depuis chez eux. Et tous les fonds récoltés, donc comme d'hab dans ce genre de marathon, hein, permettent de participer à une tombola où il y a plein d'éditeurs, de développeurs aussi, enfin plein de petits studios, voire de gens qui n'ont pas grand-chose à voir avec le jeu en façade, mais qui sont des gamers dans le cœur. Donc tous ces gens ont donné des petits cadeaux pour les tombola. Et voilà, donc tous les fonds de cette année, encore une fois, ça va aller directement à l'association Les Petits Princes, qui est plus ou moins un équivalent de Make-A-Wish. Donc si vous connaissez pas, c'est une assoc qui se charge d'aider des enfants qui sont plutôt bien malades à réaliser ce qu'ils appellent un rêve pour leur redonner le sourire et leur donner un peu la niaque pour sortir de la saloperie qu'ils ont.
Donc c'est bien. Donc on désert
donc c'est très très bien. Et sachez que rigoler ou réaliser un rêve pour guérir, ça aide énormément.
Je confirme. Je confirme. Mais donc Desert Bus pour l'espoir, à partir de
la version
vendredi
française,
soir,
vendredi voilà. 17h sur Twitch. Je viens de balancer un petit tweet avec les deux comptes donc de Loisirs Numériques et de Desert Bus. Le lien vers le Twitch, c'est con. Enfin, leur chaîne, voilà. Ça s'appelle Desert Bus FR. Et puis,
allez faire un petit tour.
C'est vraiment sympa.
Voilà, allez clapper dans le chat, ça coûte pas grand chose. Et puis si vous avez envie de mettre un petit billet, vous avez le droit. Voilà, ça fait toujours plaisir. Monsieur Antix qui voulait nous parler de speedrun de Metroid Dread, puisque ça y est, ça commence enfin. Alors, est-ce que c'est passé sous l'heure et demie?
Alors,
le dernier que j'ai regardé
faisait
1h23.
Alors, le record en real time, Alors il y a déjà pas mal de catégories, hein. Attention, hein, le jeu, quand tu dis il commence à décoller, je crois que genre 2 heures après la sortie du jeu, il commençait déjà à speedrunner.
Oui, mais je veux dire, on avait...
Donc, ça c'est ma boule. Voilà. Actuellement, le meilleur temps est à 1 heure et 10 minutes, donc en utilisant des glitches assez vénères, dont un qui a été patché, j'y reviendrai juste après, et sans l'utilisation de glitches majeurs, mais alors sûrement avec... des trucs genre pouvoir essayer de tirer à travers les murs qui permet de skip pas mal de phases du jeu, notamment du début du jeu. Il est à 1h22. Sachant que, alors là je parle en normal et en 90% évidemment. Hein. T'as des runs 0%, de base. T'as des runs 100% la base. Mais là je parle des catégories qui t'intéressent.
Alors est-ce qu'il y a un low percent déjà ou pas encore?
Il y a un 0%.
Oh putain.
Mais alors c'est, un glitch, c'est du glitch. Hein, c'est glitch.
Oui, je me doute.
Faut fracasser le jeu en deux. En fait... en plus ça tombe bien parce que j'avais proposé d'en parler hier et aujourd'hui il y a une mise à jour du jeu qui patch un glitch assez important en fait du speedrun actuel, donc de la partie unrestricted, donc sans majeur glitch, sans glitch majeur, qui en fait te permet d'être invincible. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une partie une des variantes du run, c'est de le faire sans récupérer la Varia Suit et la Gravity Suit. Donc,
ok.
Pour ceux qui connaissent Metroid, je vais pas te préciser ce qu'est la Varia Suit. Pour les autres, c'est ce qui va notamment permettre de passer les zones à forte chaleur du jeu.
Mais trop chaud, trop froide.
Alors, trop chaud pour la Varia Suit et trop froide pour la Gravity. Et en fait, l'intérêt de ce glitch, c'est que quand on est invincible, on prend pas de dégâts, et notamment dans ces zones. Ce qui, en fait, est indispensable pour traverser certaines, plusieurs moments du jeu. Et ça évite d'avoir à aller se farcir le trajet pour récupérer la Varia Suit à peu près au premier tiers du jeu, de mémoire. Alors ça s'appelle la Suitless, il y a un gars qui a fait tout un guide de son record en 1h14 sur YouTube, en plusieurs parties, vous pouvez aller voir.
Ça c'est cool quand il les explique.
C'est mieux. Pour le coup, ce glitch-là était patché. En fait, c'était une technique qui était pas très compliquée à faire, qui plus est. Il fallait se rendre vers l'entrée d'une salle d'émis. Donc, vous voyez les portes avec les carrés qui sont vraiment distantes. Et en fait, il fallait commencer à y rentrer en boule. Et juste avant de rentrer dans la porte, il fallait se remettre en Samus normal. Et en fait, ce que ça faisait, c'est qu'après, on devenait insensible à tout n'importe quoi. On pouvait passer à travers tous les ennemis sans prendre de dégâts. Ça a été patché par Mercury Steam aujourd'hui. Ils ont expliqué d'ailleurs leur choix dans le patch notes, qui est assez rare mine de rien,
ouais.
En disant que c'était quand même un glitch qui était qui pouvait arriver assez facilement mine de rien. Enfin, je l'ai expliqué. Je pense pas que c'est des choses qu'on peut arriver à faire involontairement, même si à mon avis c'est quand même genre 0,1% quelque chose comme ça. Mais en gros, ils l'ont patché parce que pour eux ça changeait, ça ne correspondait pas à l'expérience de jeu qu'ils voulaient pour Metroid Dread.
Oui, ça casse peut-être un peu trop le jeu.
Voilà, après, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la différence, elle est genre de 10 minutes actuellement, enfin de 12 minutes plutôt, entre les world records avec et sans glitch, donc il n'y aura pas une très grosse différence au niveau du world record, je pense. Même si on est déjà des world records à la minute, hein. Ce qui est pas mal pour un jeu qui a à peine un mois et demi, je le rappelle.
Non, mais c'est normal, ça. Ça, c'est normal. Tu vas la prochaine AGDQ qui est dans quelques semaines, tu vas avoir du Metroid Dread en direct où il y a un mec qui va casser un 21 sans problème.
Ah oui, non, mais c'est aussi ce qui est assez cool. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est autant le côté. Déjà, le jeu, on s'y attendait un peu, c'est un Metroid. Est très apprécié de la communauté speedrun qui, en plus, a très vite découvert des séquences break. J'en ai testé quelques-uns là sur ma dernière partie. C'est assez facile à faire, c'est très drôle. Hein. J'ai obtenu le super missile un peu plus tôt. Il y a des boss qui sont morts en 2 minutes. C'était très marrant. C'est marrant, ils crèvent vite alors que je suis en hard.
Il me semble même qu'il y a un boss qui a une cinématique de mort un peu différente.
Oui, alors c'est Cred. C'est Cred. Si tu chopes les bombes avant de l'affronter, t'as un launcher de bombes boule morphine qui t'emmène directement. Dans son estomac, et tu peux juste le one-shot à partir de ce moment-là, ce qui est assez cool. En fait, il y a un autre boss aussi que tu peux one-shot comme ça, mais t'as pas besoin de séquence break. Faut lui faire un Shine Spark dans la tronche.
Ok.
Alors, par contre, une fois que tu l'as calé, celui-là, il tombe, hein, il est mort.
Voilà. Bon, en tout cas, ça se passe bien. Je vais finir ce...
C'est parce que c'est très chouette de voir l'effervescence autour du jeu et de voir en plus les gens évoluer, présenter leurs techniques. pour le coup, en plus, je trouve que c'est pas un jeu qui est extrêmement dur de comprendre les techniques. Il y en a une, c'est suffit de glisser dans le vide, et un peu comme dans Donkey Kong Country Returns, on peut sauter derrière, donc on peut aller un petit peu plus loin. Et les petits trucs comme ça, c'est cool.
D'accord, et eh bien merci. Je vais juste finir pour vous parler de la tristesse du GOTY 2021. Donc comme vous savez, il y a les Game Awards qui vont avoir lieu, je crois que c'est le 9 décembre de cette année.
C'est ça, ouais, c'est ça.
Et quand tu regardes les jeux qui sont nominés pour le jeu de l'année, bah, ça fout quand même un peu les glandes. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, et à part Metroid Dread qui... pourrait être jeu de l'année, mais qui franchement je trouve est un petit peu compliqué au niveau du département musical notamment, qui fait que pour moi c'est le seul truc qui retient un peu le jeu. Bah franchement, les jeux de l'année là c'est chaud les marrons, hein. Il y a It Takes Two.
Parfait.
Ouais, non mais enfin voilà,
bah, c'est quoi, c'est un jeu collaboratif
Oui, enfin j'en sais rien, peut-être
classique quoi,
c'est un jeu Electronic Arts, voilà.
C'est un très bon jeu coop en vrai.
Il paraît que c'est un très bon jeu coop,
mais faut le faire à deux.
T'as Deathloop, t'as des choses comme ça. C'est-à-dire que t'es quand même sur un truc qui est un cran en dessous de l'année dernière, voire un peu plus quoi.
Il y avait quoi l'année dernière?
Ça reste des bons jeux dans l'ensemble, hein, attention.
Non, on n'a pas dit que c'était. J'ai pas dit que c'était des mauvais jeux. J'ai juste dit que je trouve qu'effectivement, c'est le même problème à chaque fois que tu as des récompenses annuelles, c'est que tu as forcément des années où c'est la sélection est un peu moins bonne que l'année précédente, ou sera un peu moins bonne que l'année suivante. Voilà. Je pense que de temps en temps, quand on a des années un peu à vide comme ça, ce serait bien d'arrêter ce genre de truc-là.
En plus, c'était pas fondamentalement une année à vide, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de...
Il y a pas de truc qui soit vraiment démarqué.
Ouais, c'est non. Ça, c'est pas. Il n'y a pas un Breath of the Wild ou un The Last of Us Partie 2. Alors, moi, je suis pas très fan de The Last of Us, mais ça reste un jeu qui se veut un peu au-dessus de la moyenne.
Mais, j'ai lancé Breath of the Wild sur la Switch OLED qui est sortie cette année, donc ce sera le GOTY pour la quatrième année.
Comme chaque année. Bah, c'est vrai que ça manquait d'un jeu comme ça, mais je saurais même pas dire si l'année dernière. Bah, si, l'année dernière, il y avait Hades. Même si t'as pas aimé Mortal.
J'ai pas aimé. C'est le seul rogue-like, je sais pas comment on appelle ça, sur lequel j'ai tenu un tout petit peu plus d'une dizaine d'heures. Avant d'en avoir plein le cul. Donc c'est quand même pas si mal que ça.
Bien sûr.
Donc ça veut dire que le truc était suffisamment bien foutu pour me tenir jusqu'à ce que j'en ai vraiment marre. Ce qui est arrivé finalement assez lentement.
Et du coup, on est d'accord, la catégorie la plus intéressante, encore une fois, ça va être les Games for Impact.
Et non, la catégorie meilleur team e-sport, je vois pas pourquoi tu...
Oh putain. Non, mais attends, et le...
La meilleure team e-sport Budweiser.
Ah putain.
La catégorie jeu le plus attendu, c'est nouveau de cette année.
Il me semble.
Ouais.
On s'en branle, ça sert à rien,
on s'en tape. Non mais attends, Games for Impact, donc c'est peut-être ceux qui sont les plus intéressants, parce qu'effectivement, c'est là où tu vas avoir les expériences les plus cheloues.
Ouais, chelou, avec un message...
Un message fort, bah c'est enfin, là voilà, il y avait eu That Dragon Cancer, ou des trucs comme ça.
Exactement,
des
jeux qui, celui-là.
Effectivement, sortent un peu de l'ordinaire. Voilà. Mais t'as aussi la catégorie accessibilité, auquel nous on tient beaucoup. Il y a vraiment des choses intéressantes, en plus, cette année, dans la catégorie accessibilité.
Sponsorisé par Chevrolet, rappelons-le.
Oui, stop. Je rappelle que Far Cry 6, hein, qui est quand même considéré par énormément de gens comme très médiocre, est nominé dans la catégorie meilleur jeu d'action, un truc comme ça, donc on est quand même...
Bah ça reste un peu l'école des fans c'est l'événement de Monsieur Doritos, hein.
Oui, non, alors les dans les jeux familiaux, il y a pas Mario Party Superstars, je suis très étonné. Je crois qu'il y a pas, d'ailleurs, j'ai même pas dit.
Parce que c'est un jeu briseur de famille, donc c'est pas un jeu familial.
Je sais plus, mais tu vois, il y aurait le WarioWare, il me semble.
Alors WarioWare, il le mériterait peut-être, en l'occurrence, d'être...
En ce sens, c'est la catégorie familial. Nintendo, comme d'hab.
Oui, de toute façon, c'est...
Exactement.
C'est un peu caricatural, mais c'est ça. Bref, donc, nous allons marquer une première pause musicale, et je vais vous proposer un petit truc un peu rigolo.
Si c'est Billy Hatchet, je me barre.
J'aurais pu le faire.
Il l'a déjà fait la semaine dernière, recommence pas.
Non, mais, attendez, je vous rappelle que c'est pas parce que je vous cache la sélection musicale qu'elle est mauvaise.
Je pouvais l'avoir depuis tout à l'heure, Blood Rain. Non.
Voilà, donc on va s'écouter un petit morceau de la BO de Blood Rain. En fait, j'ai cherché des jeux qui étaient sortis sur GameCube et qui avaient été remasterisés plus tard. Figurez-vous qu'il y en a quand même quelques-uns. Et du coup, là, j'ai sélectionné un petit morceau de la bande originale de Blood Rain. Alors, Blood Rain, on se rappelle d'un jeu intéressant, on va dire.
Est-ce que le seul intérêt du jeu, c'était pas la meuf avec des gros seins?
Alors, non, le jeu est pas si mal que ça. Le jeu est plutôt intéressant. C'est, on va dire, entre Blood Omen 2, Blade le film, Buffy contre les vampires. Enfin voilà, ça prend dans pas mal de trucs. Ouf. C'est Eidos, donc c'est plutôt de qualité.
J'avais oublié ce design.
De jeu. Wow. Le design est assez monstrueux.
Le mauvais
goût. Il y a donc
hein.
une version revamped, puisque c'était HP Nordique. ça me fait beaucoup rire. Qui va sortir dans quelques jours, ou qui est sorti il y a quelques jours. Voilà, c'est pas forcément un remaster qu'on attendait beaucoup, je vais vous avouer. Mais le fait est, voilà, c'est un jeu sympathique. Et ça paye pas de mine et ça coûte pas grand chose. On va s'écouter le morceau qui s'appelle Argentina One. C'est composé par un monsieur qui s'appelle Kyle
Madonna.
Richards. Non, pas du tout. Pas du tout, monsieur. Ce n'est pas Don't Cry For Me, Argentina One.
Ah.
Voilà, et on se retrouve dans un tout petit peu moins de 3 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Et donc, nous allons remettre une petite couche de cube.
Exactement.
Ouais, ouais.
On va mettre une cinquième face au cube.
Une petite, voilà, attends, une petite tartine. Attendez. What? On va commencer par deux petits trucs qu'on n'avait pas vraiment abordés, enfin peu abordés. La première, c'était la Wavebird. On en a un tout petit peu parlé, mais pas.
Ouais, on avait parlé en off en se rendant compte qu'on n'en avait pas parlé.
Alors que ça reste une manette sans fil, une des premières.
Alors, une des premières.
Une des premières qui marche.
Qui marche, voilà. Parce
qui marche très bien en plus.
Des hein. manettes sans fil infrarouge, on en avait depuis quelques années, mais ça marche pas très très bien. Il faut pas secouer trop la manette et tout ça, et il faut rester bien aligné avec le capteur, enfin c'est pas évident.
Ah, là, une c'est... Wiimote quoi.
Oui, voilà. Ça résume assez bien le truc. Là, la Wavebird, ça marche extrêmement bien puisque ça se sert de la bande 2,4 GHz.
Balance ton anecdote.
La bande Wi-Fi, et il faut savoir que Nintendo en France a dû attendre l'autorisation de l'armée pour pouvoir vendre les Wavebird, puisque c'est l'ARCEP qui accorde les fréquences, mais c'est l'armée qui décide si tu as le droit de les utiliser. Voilà. Donc comme c'était proche de la bande Wi-Fi, ça n'a pas dû poser trop de problèmes, mais en fait, voilà, il faut savoir que c'est la bande de fréquence qui est utilisée, notamment pour le Wi-Fi A, d'ailleurs le meilleur Wi-Fi, celui qui est réputé pour avoir les meilleurs... les meilleures performances. Et donc la Wavebird, c'est quand même pas mal parce qu'on peut avoir 16 Wavebird dans la même pièce, avec juste une petite molette qui permet de régler, un petit capteur sur la console, deux batteries, enfin deux petites piles dans la manette. Le seul problème, c'est que bah, pour des raisons de budget énergétique, il n'y a pas de vibration. C'est un tout petit peu dommage, je trouve, même si les vibrations sur GameCube sont pas forcément la feature de ouf malade. Mais bon, quand même. Ah. La Wavebird, ça reste aujourd'hui la meilleure façon de jouer à la GameCube. Hein, je veux dire, tu te rends compte la révolution à l'époque, quoi. T'étais dans ton lit. Je sais pas si tu te rappelles cette fabuleuse pub justement pour la Wavebird où t'as un mec qui est aux chiottes. C'est la pub de Méduse, hein, officiellement. T'as un mec qui est aux chiottes et il jouait à sa GameCube, mais avec genre le miroir qui était sur la porte des chiottes. Et le slogan c'était maintenant plus rien ne peut se mettre entre vous et le jeu. je trouve que c'est excellent. C'est vraiment extrêmement drôle.
Nintendo et la longue histoire des chiottes. Vous vous rappelez la première pub de Mario Kart 8 sur Switch?
Ah non, je me rappelle pas.
Chien à dire. Ouais. Le premier plan de la pub...
8.
Ouais. Le premier plan de la pub, c'est un mec aux chiottes.
Bah, c'est normal, ça.
C'est la base.
Oui, t'avais la pub de la Game Boy. Où jouez-vous avec le vôtre?
Aussi.
Oui, voilà. Mais donc, du coup, on sait d'où vient cette obsession de Méduse. Hein. Je veux dire... Voilà. On voulait aussi parler du micro dont on n'avait pas du tout parlé. Genre pas du tout, c'est-à-dire qu'on a légèrement évoqué Odama, mais en fait on n'avait pas parlé du micro. Donc oui, sur GameCube, il y avait un micro. Comme sur N64 d'ailleurs, où il y avait un micro. Le micro N64, c'est compliqué. Et ce micro, il a été utilisé pour finalement assez peu de jeux de mémoire. Donc Odama, on parlera un tout petit peu après, Mario Party 7, Mario Party 6, je me souviens plus exactement. 6 ou 7, je crois.
Aucune idée.
Et donc c'est un micro qui se branche en fait sur le port carte mémoire. Alors ça, j'ai jamais vraiment compris pourquoi. C'est un port comme un autre, tu vas me dire.
Dire because fuck you, et puis...
C'est un peu ça. Alors il faut savoir qu'il y a des jeux qui...
juste pour des questions de débit.
Je pense aussi, ouais. Enfin je me demande si c'est pas ça. Alors je sais pas exactement ce que ça transmet, parce que du coup comme on peut pas le brancher sur une prise standard, je peux pas le brancher sur mon PC pour voir un peu la qualité du micro, je pense que ça doit pas être terrible. En vrai, mais on s'en fout puisque c'était pas fait pour parler à un autre être humain, c'était fait pour parler au jeu. Donc c'est pas si grave que ça.
Bah tu sais, il y a des gens qui disent je parle à mon jeu et ils finissent dans des instituts.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est le fameux tu parles souvent à ton ordinateur? Ah non, seulement quand le frigo me répond plus. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de Mario Party sur GameCube. Qu'est-ce que c'est les histoires?
Genre 4.
Mario Party 4, Mario Party 5, Mario Party 6, Mario Party 7.
Il y a peut-être le 8 aussi, non?
Non, c'était sur Wii. Le 8 était sur Wii. Mais il était en 4 tiers.
Ouais.
Sauf l'écran titre. Ce qui veut bien dire qu'il devait être pour GameCube à un moment ou à un autre.
Alors, le nombre de jeux GameCube qui sont passés sur Wii?
Oui, un certain nombre.
On pourrait faire une émission là-dessus aussi.
Je pense aussi, oui. Un jour, vous savez que c'est les 15 ans de la Wii au mois de décembre.
Oh putain, je suis vieux.
Non, je viens de prendre un coup de vieux.
Là, 2007, oui, ça doit être ça.
Oui.
Tac, oui, c'est ça.
C'est les 14 ans.
Ah merde, c'est les 14 ans. On sera pour l'année prochaine.
Ah, putain, mais les années 90, c'était il y a 30 ans.
Bah oui. Bah oui, mon gars.
Oui, j'en sais quelque chose.
Bah oui, mon gars. bref, donc Mario Party 4 à 7, pas grand-chose de notable à part le fait que j'ai cru comprendre que Mario Party 4 faisait partie des très 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 bons épisodes de Mario Party, et qu'après c'est descendu lentement.
Alors le truc avec les Mario Party sur GameCube, c'est un peu moins, c'est un peu aussi vrai sur 64, mais un petit peu moins, c'est qu'en fait je pense que si tu me présentes un screenshot de 4 jeux, je suis incapable de les différencier.
Sérieux?
Honnêtement...
Et les plateaux sont super reconnaissables.
Ah, mais c'est nul comme super pouvoir, ça.
C'est ça, c'est comme un chien. Alors, je me souviens que dans le 5, t'avais les esprits étoiles de Paper Mario.
Oui, puisque t'achetais plus auprès de Toad, t'achetais auprès d'une espèce de grosse étoile. L'étoile à moustache, là.
C'était Pape Étoile, je crois.
Ouais, un truc comme ça.
Enfin, qui était la première personne dans Paper Mario.
JBC qui me dit, du coup, c'est 15 ans de la pâquerette.
Non, la Wii, 15 ans cette année, hein, les mecs, 2006.
Ah oui, fin 2006, pas
bon,
fin 2007.
Ben voilà, vous savez ce qu'on va faire pour la dernière émission de l'année.
Bam.
La Wii.
Voilà.
Les années fac.
Autre jeu qui...
Juste, j'ai un pote qui jouait à Odama, alors là, ça me revient.
Voilà, Odama.
C'est le jeu qui rend fou.
C'est ça, ouais, c'est exactement ça.
Et lui, il jouait en rotant. Je sais plus ce que ça fait, mais il va falloir expliquer le principe en fait.
Alors, Odama, alors je vous donne un, si vous voulez, je vous donne un petit défi, parce qu'en préparant l'émission, je me suis quand même dit à un moment, on va falloir expliquer ce que c'est qu'Odama. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer ce que c'est qu'Odama en moins de 10 secondes?
Alors,
c'est du flipper stratégique.
C'est un flipper où tu pars à tes unités.
Ça ne veut rien dire.
Attends, alors, merde, je disais que c'était un jeu stratégique du coup.
C'est un flipper. C'est un jeu de stratégie de combat dans le Japon médiéval avec un flipper et une cloche et sur lequel il faut gueuler sur les mecs pour qu'ils avancent. Alors je sais que ça a l'air très bizarre dit comme ça, c'est encore plus bizarre quand on y joue.
Ah ouais, mais quand t'as un mec qui gueule bourre, bourre.
Non, alors dans l'autre, t'es censé faire avant, arrière, à gauche, à droite.
Ouais, au début. Hein.
Alors d'ailleurs, si tu mets le jeu en allemand, tu peux gueuler en allemand, links, rechts. Je l'ai fait, j'ai vérifié, ça marche. Donc voilà, c'est quand même très important. Je sais pas s'il y a d'autres langues disponibles, il faudrait que j'essaye de voir dans les langues du jeu si on peut faire autre chose.
Ah, c'est un jeu Nintendo, c'est en 6 langues.
C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr qu'il soit en italien, par exemple. Mais bon, c'est pas très grave. Donc l'idée, c'est que tu as En fait, faut que tu ailles amener une cloche sacrée.
Là, en italien, c'est mort, faudrait une webcam pour les mains.
Oui, c'est vrai.
J'aurais dû faire une version Wii bon. Pour les Italiens.
Bref. Donc l'idée, c'est d'aller amener une putain de cloche sacrée jusqu'au bout, au fond en fait du terrain. Et le truc, c'est que t'as une grosse boule en pierre qui se balade dessus et t'as des trucs de... Non, c'est impossible à expliquer, putain de merde. Sauvez-moi. Bref, c'est probablement le jeu le plus chelou de la ludothèque GameCube, et c'est quand même dire beaucoup vu la quantité de trucs chelous qu'il y a eu sur
cette
machine.
Il y a deux Shinja Giant, quoi. C'est pour vous donner une idée.
Ouais, non, mais voilà, c'est... C'est chaud les marrons, quoi.
Ça a jamais été refait, hein.
Odama, non.
Ce serait bien.
Odama Remaster.
Ah, ça serait compliqué, quand même. Quoique, maintenant, avec micro des micros sur la majorité des consoles...
Ah, merde, y a pas de micro dans la Switch.
Ouais, c'est pas de micro sur Switch. Mais tu pourrais faire un micro USB-C. T'aurais pu le refaire sur 3DS. En plus, avec deux écrans, ça aurait pu être sympa.
Tu peux le faire avec ton casque et micro Bluetooth.
Bluetooth.
Oui, quand la Switch le gérera.
Non, tu auras, tu sais, la fameuse pieuvre que tu branches sur ton téléphone, que tu branches sur l'appli, que tu branches sur la Switch, que tu branches sur ton casque.
Tu branches sur la hamster.
Ouais, j'ai mal au crâne, là.
Voilà. Autre jeu que nous n'avons pas évoqué parce que c'était pas une exclusivité, donc il avait été gentiment mis de côté, même si c'est un jeu intéressant, Time Splitters. Alors je rappelle que Time Splitters 1 était sorti à la sortie de la PS2 en Europe.
C'est le 2 et 3 qu'on a eu sur GameCube.
Sur GameCube, on a eu le 2 et Future Perfect, puisque je rappelle qu'ils ne savent pas compter. comme
Microsoft.
Comme Kingdom Hearts.
Comme la Resident Evil. Voilà, donc,
on parle de Secret of Mana ou pas?
Non.
Non, d'accord.
On
va pas faire ça. Voilà, donc Time Splitters donc, était une exclusivité PlayStation. C'était un jeu qui était un des premiers jeux de Free Radical Design qui était des anciens de chez Rareware qui avaient notamment travaillé sur GoldenEye et qui avaient lâché le développement de Perfect Dark en plein milieu.
Ah!
Alors, info intéressante, si vous avez joué à Perfect Dark, vous avez peut-être remarqué qu'entre le tout début du jeu et le milieu, il y a une mission, je crois que c'est la mission Air Force One, qui est une espèce de point de bascule. En fait, c'est là où toute l'équipe s'est cassée.
Ah, c'est là que Rareware, c'est devenu de la merde.
C'est possible, oui. C'est possible, on pourrait le pinpointer exactement là. Et vous, si vous rejouez à Perfect Dark aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de cassure du jeu à ce moment-là. C'est-à-dire que t'as un ton complètement différent, des niveaux complètement différents à ce moment-là, précis. Donc c'est très 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 étonnant et très très intéressant, je trouve. Bref, donc Free Radical Design, dont on attendait beaucoup, qui ont donc sorti Time Splitters, qui a été un gros succès sur PlayStation 2, qui était quand même le jeu d'action de l'année pour IGN en 2001, qui était le jeu d'action de je sais plus quel magazine anglais en 2001, donc c'était vraiment un gros succès du coup. Mais un jeu qui était assez, diamant brut, hein, c'est-à-dire que Time Splitters 1, c'est vraiment très très sec. Présentation quasi zéro, mode histoire quasi zéro, enfin c'était vraiment ras des pâquerettes. Time Splitters 2, donc débarque, avec un vrai mode solo, avec une vraie histoire, avec des trucs très marrants à faire, avec des modes de jeu à foison, avec un multijoueur de folie, avec un éditeur de niveau.
Ah oui, ça c'est ouf.
Qui était complètement ouf même, on peut le dire, et qui marchait super bien, et dans lequel tu pouvais faire plusieurs modes. Enfin bref, c'était vraiment... Je me rappelle d'un mode qui m'avait marqué, moi, c'était le ETT des zombies. Alors d'abord, c'est ce que c'est rigolo de dire ce mot-là.
De TT un zombie.
C'est ça, fallait juste décapiter les zombies. Mais le truc, c'est que t'as juste un flingue, donc faut faire des headshots. Et c'est pas si facile que ça, parce que ces connards de zombies, bah, ils bougent en haut, en bas, à gauche, à droite. Et tu te fais souvent niquer. Et en fait, t'as un mode, tu peux jouer à 4, une espèce de mode horde, où faut juste aller décapiter des zombies.
Oh.
Le génie.
L'effort d'être zéro.
C'est presque ça. Et donc, il y a eu une suite qui était Time Splitter Future Perfect, parce que je ne sais pas compter. Voilà, qui était très très bien aussi, un mode histoire encore plus étouffé, un mode multijoueur qui était peut-être un tout petit peu plus en retrait, mais qui était toujours fort sympathique. Enfin voilà, si on se foutait sur la gueule sur GoldenEye sur N64, sur GameCube, on se foutait plutôt sur la gueule sur Time Splitters 2.
Alors, et après
certains se foutaient sur la gueule sur James Bond, je sais plus quoi là.
Mais, il y avait un James Bond qui était sympa de mémoire sur GameCube.
Voilà, il y en avait un qui était sympa dans les deux ou trois qui sont sortis. Mais je me souviens pas lequel. Moi, je sais que j'avais joué à Agent Under Fire et que c'était de la merde. Et je me souviens pas des deux autres. Parce que j'y ai peut-être pas joué en même temps.
Je suis en train de regarder le Wikipédia de Free Radical Design. Je savais pas que c'était eux qui avaient fait Haze.
Bah si, justement, ils sont nés avec Time Splitter et ils sont morts avec Haze.
Ouais, et après, ils sont devenus Crytek UK. Mais depuis 2021, ils se réappellent Free Radical Design, mais a priori, ils sont en train de bosser sur un nouveau Time Splitters qui sera ce coup-ci édité par Deep Silver.
Voilà, on nous dit Espion pour Cible qui était Agent Under Fire dans le chat et Nightfire. Alors, c'est peut-être Nightfire qui était meilleur parce que Agent Under Fire, j'en garde un très mauvais souvenir. C'était vraiment. Le jeu est court, le jeu est répétitif, le jeu est chiant. Le mode solo, en tout cas, pas intéressant pour Doron.
Nightfire, c'est pas le channel caché du forum.
Non. C'est Night Fever, monsieur.
Ah.
Dans les autres jeux qu'on a que très rapidement évoqués, il y a Metal Gear Solid de Twin Snakes.
Ah oui, ah bah voilà, remake.
Bah voilà, un bon remaster.
Un bon remake.
Alors, un bon remake ou un bon remaster?
C'est un remake.
Pour après. Ouais. Alors, c'est
Silicon Knights.
Tout à fait, qui est à la manœuvre. Le grand malheur de ce truc-là, c'est qu'il doit sortir genre un mois ou avant ou après Metal Gear Solid 3 sur PS2.
Ouais. Après, c'est un remake de Metal Gear Solid 1, du coup, avec le, je pense, le moteur de MGS2. En tout cas, c'est au niveau
ça
graphique de MGS2. Et notamment, ça reprend la possibilité de tirer à la première personne. Ce qui, d'après les experts de Metal Gear Solid, facilite énormément le jeu. C'est vrai qu'il n'est pas très dur, grâce à ça. Et surtout, c'est un jeu dont les gens se souviennent, parce que pour faire les cinématiques qui ont toutes été refaites, ils ont... Alors, je sais plus si c'est Kojima ou Silicon Knights, mais je pense que c'est Kojima vu que c'est un japonais. Ils ont engagé un réalisateur japonais spécialisé dans les scènes d'action assez impressionnantes.
Alors, j'ai plus son nom
en tête. Et c'est un jeu qui est vraiment connu pour ses cinématiques over the top. Que beaucoup de fans de Metal Gear te diront que ça n'a aucun sens, et puis tu leur rappelleras, t'as toujours envie de leur rappeler que Metal Gear, ça reste quand même un truc où les mecs affrontent des robots.
Enfin, c'est un film avec 2-3 interactions entre les deux, quoi.
Et que dans le 3, il y a un mec qui balance de l'électricité avec ses mains.
Ça, c'est normal. Enfin, voilà, je ne comprends pas Metal Gear Solid.
Moi, honnêtement, j'ai toujours trouvé que ça collait extrêmement bien à Metal Gear.
Le Twin Snakes, je vais spoiler une petite cinématique, mais je me rappelle d'une soirée avec un pote. On avait beaucoup aimé le premier sur PlayStation, alors que quand on le refait aujourd'hui, on le trouve chiant. Je me rappelle qu'à l'époque, on lançait donc le Twin Snakes. Il y a donc une cinématique où tu as un personnage qui fait du surf sur une roquette.
Ah oui.
Là, on a mis le jeu en pause. On a mis le jeu en pause et on a sorti la bière. Quoi. On s'est dit, c'est bon. Ils assument le scénar de Nanar. On y va à fond. Quoi.
Ah oui, non, mais c'est ça. C'est vraiment le côté assumé avec les gars qui font des caisses à chaque attaque. Bon, c'est génial. Hein. Ouais. Et le surf du missile, ça reste le plus beau. Hein.
Pardon, il me manquait le doublage français pour le coup.
Ah oui.
Fais-moi sentir l'oreille. Vivant.
Tu veux qu'on se tire l'oreille?
Bref, excusez-moi, mais j'ai vraiment du mal avec Metal Gear Solid. Prince of Persia, alors, un petit peu évoqué. Donc, il y a eu 3 jeux Prince of Persia sur GameCube, à la qualité variable. Sands of Time est un putain de chef-d'œuvre, je le dis, je l'ai déjà dit, je le redis. Si vous n'avez pas joué à Prince of Persia Sands of Time, jouez à Prince of Persia Sands of Time, c'est un jeu extraordinaire. Aussi bien, alors c'est peut-être, il y a peut-être que les combats qui sont un peu merdiques, mais finalement il n'y en a pas tant que ça.
Ah, qui ont vieilli après.
Non, ils ont été merdiques même à l'époque. Hein, fou.
C'est les mêmes dans Assassin's Creed. Hein.
Alors dans Assassin's Creed, ils sont un poil plus intéressants. La Prince of Persia, tu sens que c'est vraiment le brouillon. En tout cas, le 1. Alors, voilà. Donc il y a même un article, une archive de Cranky sur Prince of Persia, sur les 3. Donc Prince of Persia Sands of Time est un chef-d'œuvre, notamment en termes de narration. C'est extraordinaire la quantité d'astuces narratives qu'il y a pour arriver à ce que voulait faire Ubisoft Montpellier. En plus, c'est Ubisoup Montpellier Cocorico. Excusez-moi.
Pas mal, non, c'est français.
C'est ça. Donc franchement, un jeu qui envoie du très 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 gros pâté. Il y a eu ensuite Warrior Within, donc le guerrier intérieur, je sais plus comment il s'appelle. Le guerrier de Dedain. titre québécois.
Le guerrier de Dedain.
Je crois que c'est l'âme du guerrier en français, qui est une sombre merde, parce que tu...
C'est celui-là qui a une BO de merde.
Alors celui-là a une BO de merde, c'est ce que je souligne. Il a un système de combat qui est bien meilleur, faut quand même lui rendre ce qu'il y a. Le problème, c'est qu'en fait, c'était pas le combat, le focus principal de Prince of Persia. C'était plus d'avoir un scénario intéressant et enfin voilà, pour moi c'est plus, oui, ça qui m'emportait, c'est l'ambiance du scénario et le rewind, la plateforme avec du rewind, c'est-à-dire le truc où tu peux prendre des risques, mais pas n'importe comment. Enfin voilà, je trouvais ça intéressant, le système de risque-récompense que tu as à l'intérieur du jeu. Bon voilà, Prince of Persia Warrior Within, c'est raté, on va le dire. Il y a une idée intéressante qui est, parce que tu as libéré les sables du temps dans le premier, tu es poursuivi par le monstre gardien du temps qui est le Daaka et auquel tu ne peux pas échapper. Ah, donc c'était l'idée intéressante du truc. Effectivement, c'était pas inintéressant, ça faisait une espèce de Nemesis de Resident Evil 3, quoi.
J'allais dire, ouais, ça fait un Mister X, quoi.
C'est ça, sauf que c'est très mal exploité, tout est scripté. Finalement, les séquences où tu lui échappes sont très 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 téléphonées. Bref, donc Warrior Within est raté. Et le dernier jeu qui sortira sur GameCube, puis sur Wii, sous le titre Rival Sword, mais qui s'appelle... j'ai plus le truc en tête.
C'est pas Prince of Persia 3.
Prince of Persia 3, était un jeu qui était pas terrible. Alors, il rajoute une composante infiltration, c'est-à-dire que les combats qui étaient mieux dans le 2, ils se sont dit finalement, les combats, on s'en bat les couilles, on va plutôt te permettre d'aller les zapper si t'es bon. Et en fait, si t'es mauvais, tu tapes les combats. Si t'es très bon, t'arrives à tuer tous les ennemis d'une salle, en fait, façon Batman Arkham Asylum. C'est-à-dire que tu montes sur un perchoir et en fait tu vas aller enchaîner ce qu'ils appellent des speed kills, c'est-à-dire si tu appuies sur le bon bouton au bon moment, c'est pas tout à fait une QTE parce que t'es quand même obligé d'être un peu d'aller choisir ce que tu vas faire, mais tu vas pouvoir aller tuer plusieurs ennemis en les enchaînant en fait. Donc tu vas aller tuer le premier, puis rebondir pour tuer le deuxième, puis rebondir pour tuer un troisième et ainsi de suite. Donc c'est plutôt bien foutu. Voilà, donc le 3, moi j'avais pas tellement apprécié, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin où les mecs sont arrivés à replacer un twist un peu comme dans le 1 qui était très bien. Je ne spoilerai pas ici parce que franchement ça vaut le coup d'être fait, ça va assez vite à faire comme jeu, en plus ça prend 4-5 heures max. Donc si vous avez l'occasion, faites-le. Donc voilà, si vous devez rejouer à Prince of Persia, jouez au 1, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Éventuellement jouez au 3 parce qu'il est pas si mal que ça. Et il y a un joli twist rigolo à la fin.
Le 1, je crois qu'il y a un remake qui est prévu l'année prochaine.
J'aime beaucoup Sands of Time, vraiment.
Il me semble, mais je crois que ça a été repoussé.
Ça a peut-être été repoussé. Mais t'as vraiment un jeu avec une putain d'idée centrale qui marche bien. Les mecs vont jusqu'au bout du truc et ils arrivent à adapter tout le scénar, tout l'univers et toute l'ambiance juste autour de cette mécanique. Quand même assez extraordinaire. Pour un jeu qui a été ressorti du placard, puisque je rappelle que Prince of Persia, c'est un truc qui était sur Apple II dans les années 80. Mectons ça.
Ouais, Prince of Persia, c'est comme Doom, ça a été porté sur à peu près tout et n'importe quoi.
Oui, voilà, c'est un grippin. Alors, toujours chez Ubisoft, on avait Splinter Cell. Alors, on va pas en faire beaucoup là-dessus, mais c'est Splinter Cell est à l'origine une exclusivité temporaire Xbox. C'est là où le jeu est le plus beau et le plus impressionnant, mais finalement, il est sorti sur tous les supports.
Ça leur servait de démo pour leur système d'éclairage.
C'est ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'Ubisoft a développé ensuite tous ses jeux sur Xbox et que les autres versions n'étaient que des portages. Parce qu'ils avaient le moteur de base qui faisait ça. Et donc on nous confirme qu'il y a bien
Sands of Time. Ça fait plaisir.
Alors par contre, allez pas regarder les plateformes parce qu'il en manque une.
Oh non, put everything on Switch.
Il n'y a pas Stadia.
Oui, il n'y a pas de Stadia. Je suis désolé pour toi. Il n'y a pas la Switch non plus.
Ah, c'est triste.
Ouais, ça, c'est nul par contre.
C'est un peu tristoun, ouais. Enfin bon. Donc voilà, Splinter Cell, une bonne série rigolote, et en fait, les Splinter Cell ont introduit au fur et à mesure tout un tas de trucs, notamment du multijoueur asymétrique sur, je crois que c'est Pandora's Tomorrow, qui était le troisième épisode de mémoire. Voilà. Donc, pareil, alors si vous aimez les jeux d'infiltration, c'est une bonne référence, hein, je pense qu'on peut le dire.
Ah, c'est cool, donc le scénar est très très cool. Enfin, sur même Tom Clancy.
C'était une référence d'infiltration un peu plus pointue que Metal Gear, et qui quand même terminait très souvent sur « bon, j'ai un bazooka, je tire sur tout ce qui bouge ».
C'est ça, c'est du scénar alors, à la Jason Bourne. Hein,
c'est ça, alors Splinter Cell, t'as quand même quelques missions où à un moment on te dit « bon, bah maintenant ça sert plus à rien d'être discret, tu peux bourrer dans le tas », ce qui fait du bien, hein, parce que les missions sont quand même très tendues. Hein. Pour l'avoir fini à l'époque, il y a 2-3 missions, j'en avais bien chié.
Ça me rappelle, à la fac, on avait eu une conférence d'un mec d'Ubi qui nous parlait de plein de trucs. Donc, notamment ce que je parlais il y a 2 semaines, le mec qui a fait une fiesta quand sur PS3, ils ont réussi à afficher un triangle. Il a bossé sur le premier Splinter Cell. Il nous disait, vous savez, le bruit très caractéristique quand Sam Fisher met ses lunettes
oui.
à... Il disait, il ne peut plus l'entendre. Il l'entend aujourd'hui, ça lui fout la chiasse. Tellement il l'entendait...
Ah, mais ça m'étonne pas. Ça reste un jeu. Enfin, Splinter Cell, ça reste une série vachement emblématique. Tu vois, le truc avec les 3 yeux. Enfin, tu vois, ça existe même pas dans la réalité. Ouais, ouais. Mais il fallait trouver un symbole, un truc, un bidule pour que le joueur puisse voir le personnage, même s'il était complètement dans le noir. Donc, c'est une idée de génie d'avoir mis
c'est
ce
génial,
truc avec.
C'est génial.
Voilà, t'as quelques très bonnes idées de design. Ce qui est un peu triste sur les versions GameCube, c'est que tu avais très souvent les jeux qui étaient amputés, notamment parfois du mode multijoueur.
Il n'y avait pas la place.
Parce qu'il n'y avait pas la place sur le mini DVD, ça fait partie des premiers jeux où effectivement tu te retrouvais pas la place. Mais voilà, donc il y en a eu 4 hein, sur GameCube, y compris l'assez médiocre 4e épisode.
On se met bien.
Le truc où il est prisonnier, je sais pas quoi, là, il est agent double. Donc
c'est
Splinter Cell Double Agent.
Ouais, c'est celui d'après que j'ai beaucoup aimé, qui faisait vraiment très très Jason Bourne pour le coup.
Oui, où t'avais les fameuses indications qui étaient dans le décor directement incrustées.
Ouais.
C'est une très bonne idée de game design, ça aussi. Alors j'en ai parlé un petit peu, mais je vais en reparler quand même. Il y a les jeux de sport 2K.
Ah,
il
y en a eu
si vous vous rappelez.
Sur Switch.
Bah oui.
Sur GameCube,
il y en a eu.
Ou sur Lapsus.
Ou sur Lapsus, oui. Sur GameCube, il y en a eu, puisqu'il y a eu, comment dire, NFL 2K2, qui est un excellent, qui est le meilleur jeu de foot US auquel j'ai joué. Et figurez-vous que je joue de temps en temps à des jeux de foot US.
Oui, ça, ça enfin, petite parenthèse, ça passe bien, parce que à regarder, j'ai toujours trouvé ça chiant.
Alors, si tu connais le foot US et que t'aimes bien ça, c'est des jeux qui passent super bien, qui sont très très fun à jouer, en fait.
Parce que du coup, ça zappe la pub.
Alors, t'as pas les pubs ?
Mais déjà... Oh.
Alors évidemment aujourd'hui les bouquins de strat sont plus à jour, les joueurs, les rosters sont plus à jour.
Bon, en fait, le gameplay.
Le gameplay marche très bien parce qu'en fait tu sens que c'est Sega derrière, c'est quand même Sega Sports derrière.
Ok.
Et tu sens que ils essayent pas de faire de la simulation pure et dure, mais ils essayent de coller suffisamment à la réalité pour que ce soit fun. En fait l'idée c'est que je trouve que c'est des jeux qui sont mieux équilibrés que les Madden NFL de l'époque, qui avaient tendance à être soit trop arcade, soit trop simu. Mmh. Alors que ceux-là essaient de trouver un juste milieu qui marche pas si mal que ça.
Ok.
Voilà. Mais vraiment, NFL 2K, c'est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs jeux de foot US jamais fait, avec Tecmo Super Bowl sur NES, et doit y avoir un Madden dans le lot, quoi. Mais t'es vraiment sur des jeux où, quand Sega a pu avoir la licence de la NFL pendant les 2 ou 3 ans où ils l'ont eu, ils ont vraiment fait des jeux super quali.
Je note.
Voilà. T'as eu un NHL 2K, alors je suis moins fan des jeux de hockey sur glace, mais celui-ci marchait très bien. Et après, t'as eu un ou deux NBA 2K. Alors là, du coup, je ne sais pas si c'est Sega Sports à l'origine, NBA 2K, il me semble que oui, mais ça a dû passer dans le giron de quelqu'un d'autre, parce que c'est
genre plus de
Sega qui l'a fait. De 2K.
Genre 2K.
On est bien d'accord. Donc il y a une astuce là-dessus, hein. Je ne sais pas ce qui se passe.
Pour le coup, NBA 2K, ça reste la référence du basketball. Alors, que me dit Wikipédia ?
Mon Dieu.
Donc c'était éditeur Sega jusqu'en 2004, avec ça a été récupéré par 2K Sports en 2005.
D'accord. Donc c'était bien ça. Voilà, donc alors là, ma seule vraie tristesse et vrai regret, c'est que le dernier NFL qui est sorti sur GameCube, c'était NFL 2K3, et il est sorti que aux États-Unis. Il n'est pas sorti en Europe.
Alors comme souvent avec les jeux de football américain. Hein.
Sauf les Madden, qui sortent toujours en Europe. Je pense qu'ils doivent être tirés à un nombre d'exemplaires risible. Mais ils sortent toujours en Europe.
Je me souviens que mon frère qui jouait sur Xbox 360 les importait.
Ah, oh.
Ils n'en sortaient pas toujours.
D'accord. Ah, c'est possible, oui, que toutes les éditions ne sortent pas tous les ans, par contre.
Tiens, avant qu'on passe au jeu Nintendo dans la liste, moi, je l'avais zappé, celui-là. Un jeu que j'avais bien aimé, c'était l'adaptation du Retour du Roi, donc le troisième film Seigneur des Anneaux.
Ça fait super beat'em all. Ouais, oui.
Alors le second, je l'avais fait sur PS2, parce que je crois qu'il était il y a eu 2 adaptations du Seigneur des Anneaux, du deuxième et du troisième film. Les 2 tours, je crois que j'avais joué rapidement sur PS2, c'était pas ouf. Mais alors le Retour du Roi, il est très très chouette, c'est un super jeu coop.
Ouais.
Où tu vas refaire les grandes scènes du troisième film en commençant par la bataille du gouffre de Helm, qui fait office de tuto. Et ce qui est assez chouette, c'est que du coup, en plus, c'est un embranchement, c'est 3 embranchements, c'est-à-dire que tu vas faire en parallèle le scénario de Gandalf, celui de Frodon et celui d'Aragorn. Et c'est vraiment un super beat'em all. Enfin, super. Je pense qu'à l'heure actuelle, il est modérément jouable, mais pour l'époque, c'était vraiment très cool. Et je l'ai écumé à 2 avec mon meilleur pote, c'était vraiment très cool.
Vous vous rendez compte qu'on vient de dire du bien d'un jeu EA ?
Bah, ça arrive de temps en temps.
Ça arrive, hein.
Quel indigne.
Je veux dire, Martin, il a fait de l'artiste tous les ans. Hein.
Effectivement. Alors, on va faire du coup les 2 ou 3 derniers jeux Sega avant de finir avec les derniers jeux Nintendo qu'on n'avait pas fait ou très peu fait. Il y a Phantasy Star Online, on a eu Phantasy Star Online 1 et 2 qui étaient dans la même boîte, en fait, qui sont donc les rééditions de la version Dreamcast. Donc, c'est pas vraiment un remake ou un remaster, c'est vraiment un portage, mais compilé, c'est-à-dire qu'on a l'émission du 1 et l'émission du 2. Et qui était un des rares jeux à utiliser le mode online. Alors pas celui de Nintendo, c'était sur les serveurs de Sega.
Le jeu qui a permis de pirater la GameCube.
Et c'est aussi un des jeux qui a été très populaire parce qu'effectivement, quand tu te connectais sur les serveurs officiels de Sega, ils pouvaient te télécharger un binaire. Et il n'y avait pas de signature de binaire sur GameCube. C'est-à-dire si tu arrivais à exécuter du code, tu l'exécutais. Il n'y a pas de signature. Et donc c'est le premier truc qui a permis d'aller effectivement pirater la GameCube, c'est-à-dire que tu démarrais une copie de Phantasy Star Online 1 et 2, tu changeais le DNS de la machine, tu la faisais taper sur un FTP qui était sur ton PC, ça récupérait un payload qui permettait d'aller charger n'importe quoi. Le problème c'est que c'était extrêmement lent. Mais ça marchait. Donc, tu pouvais charger un ISO de jeu complet en fait comme ça, en te servant de Phantasy Star Online 1 et 2.
Excellent.
Première méthode de piratage officielle.
Tout ça pour jouer à Doom.
Tout ça pour jouer à Doom. Tu avais aussi Phantasy Star Online 3 Card Revolution. Card Evolution, d'ailleurs, je sais pas. Qui apparemment... alors, je n'y ai jamais joué. Hein, Phantasy Star Online 1 et 2, je sais que c'est des RPG qui sont très appréciés par une petite communauté très dédiée qui, d'ailleurs, continue d'y jouer aujourd'hui, que ce soit sur Dreamcast ou sur GameCube. Je veux bien croire que ce soit très chouette. Je connais pas... Pour moi, c'était un truc où tu prenais une mission, tu pouvais y aller à 4 façon World of Warcraft, en fait. C'est-à-dire, tu avais une instance, tu y allais à 4, tu tatanais des monstres, et puis à la fin, tu récupérais du loot.
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors, apparemment, dans Phantasy Star Online 3, il y a, ça devient un card RPG, c'est-à-dire qu'au lieu de te tataner la gueule, bah, tu te tatanes la gueule, mais avec des cartes. Voilà. Me demandez pas plus, je ne sais pas, c'est juste pour l'évoquer.
Un peu trop en avance sur son temps, parce que la mode des jeux où tu tatanes dessus avec des cartes, ce sera plutôt dans les années 2010.
Ouais, en plus, mais si ça se trouve, Sega était peut-être en avance sur son temps. Peut-être que Sonic, ce sera cool dans 200 ans. Quand les gens n'auront plus de pouces et plus de cerveau.
N'existera plus.
Peut-être.
Quand DeviantArt aura pris le contrôle du monde.
Mon dieu.
Oui, t'as raison dans le chat. Toujours jouable sur des serveurs privés.
Tout à fait. Y compris le 3 d'ailleurs. Il n'y a pas que le 1 et le 2. Hein. Je pense que le 3 est peut-être beaucoup moins populaire parce qu'ils ont quand même pas mal changé la formule de ce que j'ai compris. Mais...
Je t'ai pas cité.
Heureusement qu'il y a eu les serveurs privés parce que moi j'ai eu le jeu une semaine avant que les serveurs officiels ferment.
Ah, oh merde.
Pas mal. C'était en quelle année, tiens, par curiosité?
2006.
Ah oui, donc ça a
c'était
terminé.
C'était genre octobre-novembre 2006.
D'accord. Putain. C'est chaud quand même. On voulait aussi parler de Skies of Arcadia, la supérieure version. Alors Skies of Arcadia, c'est un des RPG un peu emblématiques de la Dreamcast, qui est considéré par beaucoup de fans de RPG comme étant le meilleur RPG pas fait par Square Enix.
Il y a Xeno.
Il y a Xenoblade, il y a Graten Ketos.
Oui, je sais. Voilà, je cite une source non officielle qui est le PIF.
Le PIF. Par contre, c'est pas que c'est un bon jeu. Mais c'est voilà. Zergy qui le connaît bien, non?
Ouais. Non, mais il est très bien choisi en émulation parce qu'il est cher.
Oui, malheureusement, ça fait partie des jeux très très chers.
Mais ça se trouve. Non, je suis bien aimé, puis il y a des pirates.
En fait, c'est ça. Je pense que le truc très chouette, c'est qu'il y a des pirates de l'air. C'est quoi? C'est Albator le jeu vidéo? On disait
c'est ça.
C'est ça, en fait, c'est Albator le jeu. Mais c'est pas dans l'espace.
C'est pas dans l'espace, c'est avec des bateaux volants. Et apparemment, la version GameCube est la version supérieure parce que par rapport à la version Dreamcast, les random encounters ont été. Les batailles aléatoires ont été largement baissées.
Réduites, ouais.
Les combats en bateau sont bien plus rapides, je crois aussi. Tu peux les accélérer ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais qu'il y a plein d'options de qualité de vie qui ont été rajoutées pour que le jeu soit un petit peu meilleur. Et ça a été tiré à très peu d'exemplaires comme jeu, donc...
Ouais, ça fait partie des jeux qui cotaient très vite, peu de temps après la sortie de la Wii. J'avais voulu l'acheter, il devait être déjà 80 ou 90 balles.
C'est ça. Moi, je dois en avoir une copie que j'ai dû payer une 60aine d'euros, mais j'ai eu beaucoup de chance. Et ça devait être en 2006. Hein. Donc effectivement, fin de vie de la console, où tu pouvais acheter des jeux à pas cher dans le bac d'occasion. Je rappelle que c'est le jour où j'ai acheté 3 Wavebird le même jour, dans un Saturn, qui n'existe plus aujourd'hui en France, pour... 5 euros chacune.
Mais oui, je le sais, mais tu fais comme moi, t'achètes les trucs à la sortie et t'y joues 20 ans après.
Mais voilà, comme ça t'es tranquille.
Maintenant, une Wavebird à 5 balles, il y a du vomi dessus.
Ah oui, non, mais là... voilà, 3 Wavebird, 5 balles la Wavebird, sans problème. Sans aucun problème. Et on va terminer par les derniers jeux de Nintendo dont on n'avait pas parlé. Alors, on avait évoqué Donkey Konga 1 et 2.
Je crois qu'on en a parlé en off, en se rendant compte qu'on n'en avait pas parlé.
C'est possible, mais je...
Oui.
C'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, Donkey Konga, le jeu qui se sert donc des bongos.
Oui,
c'est quoi le plus débile de l'histoire.
Instrument du monde.
Bongo de gauche, bongo de droite et le micro au milieu.
Pour clapper.
Pour clapper.
Ah, tu pouvais aussi roter dedans, ça marchait.
Ouais. Ah, mais oui, tu
gueulais, c'est la thématique du micro GameCube.
C'est le micro dans lequel tu rotes. Et donc, Donkey Konga 1 et 2 qui sont sortis partout dans le monde et qui contiennent tout un tas de morceaux. Alors, des classiques de Nintendo, c'est fait par Namco, il me semble.
Oui.
Donc, t'as aussi des classiques de Namco et t'as aussi tout un tas de trucs d'idol japonais que personne connaît, de morceaux de rock super classiques.
Il n'y avait pas les mêmes playlists entre les versions européennes, enfin les versions.
C'est ça, les versions japonaises et occidentales. Les versions Jap, c'est beaucoup plus J-pop. Nous, c'est. C'est pop, rock californien,
hein.
Tout ça.
Voilà, donc t'avais des trucs très chouettes, je me rappelle, dans Donkey Konga 1 et 2. C'est pas des jeux faciles, d'ailleurs, à haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut quand même taper sur les bongos, faut y aller, quoi.
Ah ouais, non, mais c'est cathartique comme jeu, ça fait du bien. C'est comme ça. Un Taiko Taiko aujourd'hui, C'est bah, cool.
C'est les mêmes développeurs, je pense. Hein. Ça, à mon avis, c'est quasiment la même équipe.
Il y a moyen. On a un Donkey Kong 3 qui est resté exclusif au Japon.
Ouais.
Parce qu'il n'est pas sorti en arcade aussi, Donkey Kong.
Alors, il y en a deux en arcade et c'est d'autres versions avec d'autres playlists.
D'accord, bah, c'est bon à savoir ça. Et donc, on a ce qui nous amenait à Donkey Kong Jungle Beat.
Mais quelle idée géniale!
C'est du génie. Bah, c'est EAD Tokyo, donc le futur studio de Mario Galaxy.
C'est ça, donc Nintendo qui dit vous inquiétez pas pour les bongos, si vous les achetez pour Donkey Konga, ça servira pas que pour ça, on vous promet qu'on fera des jeux avec. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors ils font aussi deux jeux en fait, hein, techniquement. Ils ont fait Donkey Kong Jungle Beat, qui est donc un jeu de plateforme Donkey Kong qui est vachement bien, et ouais, qui se joue cool. Exclusivement au bongo.
Alors, si mes souvenirs sont bons, si mes souvenirs sont bons, c'est que tu dois taper sur le bongo de droite pour aller à droite, celui de gauche pour aller à gauche.
Et clapper pour sauter.
C'est clapper pour sauter ou les deux en même temps pour sauter?
Non, clapper pour sauter et les deux en même temps, je crois que c'est tabasser le sol ou l'inverse.
Oui, c'est ça, c'est donner une patate, je crois, taper les deux en même temps. Il me semble.
Tu me mets le doute, c'est peut-être le clap pour taper. Mais...
Enfin bref, en tout cas, un jeu délirant, mais vachement bien, et en plus super compétitif en fait. Il y a vraiment un système de scoring hyper poussé dedans. Je sais pas si tu te rappelles de ça peut-être, Mecton, mais c'est...
Oui,
le jeu,
oui,
t'as
bah
un
c'est...
rang à la fin, et pour avoir le rang A, putain, mais t'as, le rang S, t'en chies des bulles, quoi.
C'est ça, c'est des niveaux très courts, et en fait, tu te rends compte que... quand tu y joues, t'es très rapidement dans la zone, quoi. Au début, t'as l'impression que t'as l'air d'un gogol, et puis après, tu te dis, bon, je m'en fous et je me fais plaisir.
J'ai l'air d'un gogol, c'est pas grave.
Mais quand tu vois quelqu'un y jouer, en fait, s'il fait la run parfaite, si tu n'écoutes que le son des bongos, ce qu'il fait, il y a un vrai rythme, quoi.
Ah non, mais le jeu est super bien pensé. Enfin, Donkey Kong Jungle Beat, c'est ouf. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y a un deuxième jeu qui utilise les bongos. Un cinquième jeu, du coup.
Vas-y, surprends-moi.
Donkey Kong Jet Race.
Il est sorti, celui-là ?
Pas du tout.
Eh bien...
On a JBC qui proposait Dark Souls, mais ça marche aussi avec la guitare de Guitar Hero.
Alors, Dark Souls, on peut aussi jouer avec un pipeau.
Mais Dark Souls, ça a été fini avec tous les contrôleurs possibles.
Oui. On est obligé de parler de Dark Souls. Oui, en plus, on va en reparler derrière, donc c'est horrible. oui, alors Donkey Kong Jet Race, qui en fait est sorti sur Wii, et qui à l'origine devait sortir sur GameCube et utiliser les bongos. Alors il est peut-être sorti aux États-Unis, hein, je suis pas sûr. Et en fait, l'idée c'est que c'est un jeu de course dans lequel quand tu tapes sur le bongo droite, bah tu fais basculer le Kong à droite, et quand tu tapes sur le bongo de gauche, bah il bascule à gauche. Voilà. Donc, c'est débile. Hein. Voilà. Donc ça existe.
Mais d'ailleurs, ils avaient ressorti Jungle Beat sur Wii, mais du coup avec la Wiimote. Tu pouvais pas y jouer avec les bongos, même en les branchant sur la machine. Ouais.
T'étais obligé de... tu secouais la manette de gauche, la manette de droite, c'est ça?
Bah je crois que c'était ça, ouais. Alors peut-être que tu devais claquer les deux manettes ensemble pour pouvoir sauter.
Oh putain, quelle horreur. Pas une mauvaise idée fondamentalement, mais voilà. Et on va finir avec Star Fox Adventure, parce que vous m'avez cassé les couilles.
Adventure ou Assault?
Alors Assault est pas fou quand même.
Tu veux dire qu'on va pas parler de WarioWare?
Ah si, faut qu'on parle de WarioWare.
On a encore failli l'oublier.
Bon alors vas-y, WarioWare, et puis on parlera pas de Star Fox.
Le meilleur jeu multi de la GameCube quand même.
Ou that.
Quel mauvais goût, on va dire le mauvais goût, mais c'est Wario, donc c'est du bon goût. Ça reprend tous les mini-jeux de la version GBA, je crois qu'il y a quasiment aucun inédit à part peut-être quelques boss. Donc le mode solo n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, surtout quand on a fait la version GBA ou pas d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est le mode multi. Et c'est plein de variantes de mode à plusieurs joueurs. Il y en a un où, qui reprend l'e-reader de la Game Boy Advance, surtout qu'on n'a jamais eu en Europe. Donc le lecteur de cartes que tu branchais dans ton port cartouche de GBA pour lire les cartes. Et bah t'as tout un mini-jeu où tu vas piocher des cartes au fur et à mesure pour faire les jeux qui sont dessus. Pendant que tu fais tes jeux, t'as tous tes potes qui vont aller essayer de voler les cartes des autres. Ah, c'est un truc de ouf, t'en as, où tu vas aller bloquer la vue de celui qui fait le mini-jeu, enfin, ça partait vraiment en couille, c'est génial.
Ça part vraiment complètement en couille. Je me rappelle d'un Dojo Day qu'on avait fait dans l'appart que j'avais à Compiègne quand j'étais étudiant, où à, je crois que c'est 1h30 ou 2h du matin, on a lancé un WarioWare.
L'accident bête,
tu vois, on était prêt à aller se coucher, puis il y en a un qui a dû faire, vas-y, on se lance un petit WarioWare pour rigoler.
Accident trapèze.
C'est presque ça. Et je crois qu'on s'est couché, il devait être 10h du matin.
J'allais dire, c'était merde, il fait jour.
C'est exactement ça, parce qu'on n'a pas déscotché du jeu de la nuit, parce qu'on se marrait beaucoup trop. On était vraiment, mais littéralement, écroulés de rire, pour de vrai. C'est un des rares jeux dans lequel je me suis vraiment marré, parce que le truc est débilissime au possible. Et voilà, un excellent jeu multijoueur. Et en Europe, une cartouche, enfin une pochette toute jaune, toute rigolote. Ouais. Voilà, ça fait plaisir. Enfin, des petits trucs un peu rigolos comme ça. Contrairement à la pochette américaine triste, hein, je veux dire.
Comme d'habitude avec les pochettes américaines, non?
Oui, alors est-ce que vous voulez vraiment qu'on parle de Star Fox? Donc Star Fox Adventure, c'est de la merde, et Star Fox Assault, bah, c'est pas terrible.
Ouais, alors Star Fox Adventure, le shader de fourrure était incroyable à l'époque, le jeu est bof.
C'est très mal équilibré, alors moi je me souviens qu'il y a des moments, on sait pas pourquoi, le pic de difficulté est explosé à la gueule.
Non mais enfin bon, Star Fox Adventures, on en a déjà parlé, on a déjà écrit plein de choses dessus, je vous invite à relire les tests de l'époque qui sont vraiment déjà très assassins. Je me rappelle de celui de Cyrard qui a vraiment dit, mais ce jeu n'a absolument aucun intérêt quoi.
C'est le dernier jeu de Rare pour Nintendo, et à la base c'était un jeu 64.
Qui était Dinosaur Planet.
Ça, d'ailleurs c'était Crystal l'héroïne.
Et dont il me semble qu'on a déjà parlé, puisqu'on avait dû parler en sujet d'actu, puisque c'est le jeu, la ROM est récemment leakée, et il y a des gens qui ont pu... Alors le jeu n'est pas jouable à 100%, mais il y a énormément d'éléments de design de Dinosaur Planet qui ont été recyclés pour Star Fox Adventures. Bref. Allez, on va se faire une deuxième petite pause musicale avant d'attaquer cette histoire de remaster, sur lequel on ne va pas passer aussi longtemps que ce que je voudrais, mais c'est pas très grave. Et on va s'écouter...
On va parler, c'est pas grave. On fera un remaster du remaster.
On va écouter un autre jeu qui a été remasterisé il n'y a pas si longtemps que ça, qui était aussi un jeu GameCube, qui est Sphinx et la malédiction de la momie.
Tu parles vraiment de jeux que tout le monde a oublié. Hein.
Bah c'est le jeu THQ nordique.
Ah bah c'est pour ça.
Voilà, mais c'est pareil, c'est des jeux de série B. C'est pas des gros triple A, mais c'est toujours des séries B sympas. Et donc là, le morceau s'appelle Fire Mummy, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et donc nous allons aborder le deuxième petit sujet de l'émission, qui consistait à dire bah, c'est quoi un remaster, qu'est-ce qui fait un bon remaster, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne.
Il y a le bon et le mauvais remaster.
Il y a le bon et le mauvais remaster, comme vous le savez. Alors déjà, je vais faire un petit parallèle qui m'est venu en chiant avant de préparer l'émission.
Toujours sur la toilette quand on a les meilleures idées, c'est bien connu.
Complètement. On va faire un petit parallèle avec le cinéma qui, pour une fois, va peut-être être pertinent.
Tu veux dire qu'on va encore faire des parallèles entre le cinéma et le jeu vidéo ?
Oui, mais là, il va être pertinent pour une fois. Donc, voilà. Qui est de dire, bah, c'est quoi, finalement, dans l'échelle entre un portage et un remake, où on situe le remaster ? Finalement, la difficulté, c'est ça. Et en préparant l'émission, c'est une des difficultés, c'est-à-dire que c'est définir ce que c'est, en fait. Voilà, mais que t'aurais bien fait de se prendre une bière, je pense que c'est nécessaire.
Ça va être long.
Voilà. Donc en fait, un portage, la définition d'un portage, c'est simplement, bah, on prend un jeu qui était sur un support et on va le mettre sur un autre, et finalement, bah, c'est le film qui était sorti en VHS et en 4 tiers, et bah, on va le mettre en DVD et en 16/9, et potentiellement, on va rajouter le doublage portugais qui n'existait pas sur le film à l'origine. Un portage, c'est ça. Portage de jeu, c'est simplement, on va les recompiler, on va éventuellement aller rebricoler quelques trucs autour, mais fondamentalement... la ressortie d'un film en DVD, la ressortie d'un film en Blu-ray, la ressortie d'un film en VHS, le fait qu'on ajoute le doublage turc ou les sous-titres québécois, ça ne change pas, c'est toujours le même film. C'est toujours la même chose. Et donc là, c'est toujours le même jeu. Donc The Witcher 3 sur Switch, aussi impressionnant soit-il, est un simple portage.
Ouais.
Même s'il a demandé du taf. J'ai pas dit que ça demandait pas du taf.
Ah non, on est d'accord. Recompiler un truc sur notre plateforme, des fois, c'est une horreur. Hein.
Voilà, surtout que t'as toutes les optimisations à te retaper. Enfin voilà, c'est... Les développeurs qui nous écoutent m'en sont témoins. J'ai jamais dit que c'était facile. Voilà. Ensuite, on a le remake. Et le remake, bah, comme au cinéma, c'est on prend un vieux film, on garde la trame principale, les personnages, les lieux, l'intrigue, les 2-3 bonnes idées, et on refait
avec Star Wars.
C'est pas l'épisode 7, ça ?
Chut. Et on refait un film au complet. Je vous rappelle qu'il y a eu un remake de Robocop, qui n'était pas nécessaire.
Alors, qui est...
Je cherche la parenthèse.
Bah, je trouve pas dégueulasse. Son problème, c'est de s'appeler Robocop.
Mais son problème, c'est de s'appeler Robocop et d'avoir été par Verhoeven il y a quelques années avant, dans une satire de la société américaine.
Oui, mais là, c'est pas la même satire.
Voilà, mais... C'est pas la même satire. Hein. Bref, donc un remake, c'est vraiment, bah, on refait un tournage, quoi. On refait complètement le film avec des nouveaux acteurs, avec potentiellement un nouveau scénario, et on garde finalement que quelques vagues idées du départ. Alors, le bon remake, c'est Resident Evil sur GameCube. On garde le lieu, on garde les personnages, on garde la trame générale, on garde, voilà, mais on refait tous les assets, on refait toute la musique, on va changer même carrément légèrement le scénario du jeu, on va dire le déroulement plus que le scénario, en fait. On va rajouter quelques idées de gameplay, parce qu'il y a des armes défensives, des choses comme ça, donc voilà, on va refaire le jeu. Bah, le remaster, c'est un peu le cul entre deux chaises. Et finalement, on reprend le jeu d'origine, on va aller refaire une partie des assets graphiques et sonores, le recompiler pour une plateforme plus moderne, éventuellement mettre à jour certains effets, upscaler la résolution globale du jeu, refaire les textures,
quality of life.
Voilà, quelques options de qualité de vie. Mais voilà, c'est le remaster, le principe, c'est ça.
Bah justement, tu vois, quand tu faisais la comparaison, moi, sortir un film qui n'était pas... qui est jamais sorti en Blu-ray, sur un Blu-ray, pour moi c'est du remaster. Enfin, surtout si tu reprends avec les masters d'époque et compagnie.
Bah,
et
justement, fondamentalement, c'est le même film. C'est le même film. Il est juste accessible dans une meilleure qualité pour toi, mais basiquement, on repart de la bobine ou de l'original du master numérique existant et on le remet juste sur un autre support. Donc, techniquement, on ne refait pas grand-chose. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas un effort. Hein. On refait l'étalonnage, on refait.
Très souvent, effectivement, il y a des remasters Blu-ray, DVD, où tu vois les changements d'étalonnage. Je ne sais plus quel film récemment, j'avais vu des comparaisons. Je crois que c'était Matrix.
Voilà, en fonction de la version. C'est très célèbre pour les changements d'étalonnage qu'il a eu entre les versions VHS et DVD.
Il y a des versions qui sont plus ou moins vertes, selon si tu les regardes. Après, là, le truc qui me viendrait à l'esprit dans ce que tu dis, finalement, pour moi, c'est un peu les versions DVD et Blu-ray de Star Wars, la trilogie d'origine.
Alors pour moi, l'édition spéciale, oui, c'est plus du remaster, parce que finalement, t'as des scènes en plus, t'as des effets spéciaux qui sont refaits, t'as des bouts de scènes même qui ont été rajoutés pour allonger certaines scènes. Voilà, là, t'es dans du remaster au sens où tu vas quand même aller améliorer le produit d'origine.
Et l'épisode 7, c'est le remake.
Voilà. C'est pute, mais c'est vrai. Voilà, mais effectivement, je trouve que Star Wars Édition Spéciale, c'est vraiment un remaster, pour le coup. On pourrait arguer sur certaines versions de Blade Runner, puisqu'il y a des versions...
C'est vrai.
Le Director's Cut.
Voilà, où t'as des trucs rajoutés... Le gag, c'est ça change complètement l'histoire. Non, c'est juste qu'effectivement, ça change l'interprétation qu'on peut avoir de 2-3 scènes.
Ça donne un nouvel éclairage.
Ouais. Ça donne un nouvel éclairage. Maintenant, ça, effectivement, c'est plus. Pour moi, c'est plus du remaster. C'est effectivement, tu ressors le même produit, mais tu vas aller rebosser tout un tas de trucs dessus et tu vas aller rajouter des choses. C'est surtout ça qui.
Dans ton analogie avec le jeu.
Tout à fait. Ah, tout à fait, c'est pas. Voilà. C'est ce qui fait que, tu vois, par exemple, le Darksiders Definitive Edition. je kiffe THQ Nordic.
C'est génial, ça. Putain. Non, mais THQ, ils sont excellents.
Oui, ouais, là-dessus, ils sont excellents. Finalement, c'était quand même plus des portages vers les consoles supérieures. C'est pas feignant, hein. Encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas un effort qui est fait derrière. Je sais qu'il y en a eu un parce que.
Non, mais c'est ça, toi, on dit portage, ça sonne péjoratif, mais il y a un vrai travail derrière.
Il y a un boulot, hein. J'ai pas de soucis là-dessus.
Et puis, on va pas se plaindre de pouvoir accéder à des jeux auxquels on peut plus accéder parce que les consoles n'existent plus ou ils sont plus en vente commerce. Hein.
Complètement. Mais tu vois, genre, un Darksiders War Mastered. Je quittais HQ Nordic, si tu nous écoutes, on te kiffe. C'est quand même des portage vers les versions supérieures, c'est-à-dire c'est le jeu disponible sur PS4 ou disponible sur PS3.
Ça veut dire qu'on aura le Fury Master, c'est bon ça ?
Oh putain, oui. Oh oui, ils vont le faire. J'espère qu'ils le feront. T'as quelques améliorations de qualité de vie, mais finalement, t'as quelques textures qui sont changées, le jeu est un petit peu plus stable, il y a un mode qualité qui est à 30 images secondes, il y a un mode performance qui est à 60 et qui tourne à 60, enfin tu vois, c'est ce genre de choses là. Est-ce que ça c'est du remaster ou est-ce que c'est simplement du portage avec un petit peu d'amélioration? C'est plus compliqué à dire, je trouve. T'es un peu sur le fil finalement, c'est pas un portage feignant, il y a quand même eu du boulot pour refaire des trucs, et ça reste un...
Mais voilà, est-ce que finalement le remaster, c'est pas un nom un peu glamour pour dire portage?
Bah,
c'est une question qui fâche.
Bah, est-ce que le Xeno 1, est-ce que là, donc, pour moi, ce serait un portage jusqu'à ce que tu arrives au chapitre additionnel sur l'épaule de Bionis qui en fait un remaster?
Je suis d'accord avec ça.
Bah, en plus, après, dans le cas de Xenoblade, t'as quand même une refonte de l'interface, pas mal de petits trucs de qualité de vie, les modèles sont plus jolis, ils ont fait les musiques, enfin pas toutes, mais une partie, enfin refait. Ils ont réenregistré les musiques.
Mais tu vois, t'es quand même plus dans le remaster que dans le portage.
Oui, après pour moi, c'est l'idée, enfin quand on avait parlé, j'avais dit que le remaster pour moi c'était finalement un portage, mais remis au standard actuel.
Ah oui, ce qui pourrait être acceptable comme définition, c'est-à-dire de dire sur Wii, tourner en 480p 30 dans le meilleur des cas, là on le fait tourner en 1080p 60.
Tu vois, pour moi, un portage c'est Resident Evil 4 sur PS2.
Oui.
Ça c'est un portage.
Ça c'est un portage pur et dur.
Et encore, pas grand chose.
Parce qu'il ajoute
des trucs en plus.
Le ADA Assignment.
Mais globalement, t'as pas besoin de remettre le jeu à niveau pour les standards de qualité visuelle, sonore actuelle. Alors que Xenoblade et Xenoblade HD, ben, il y en a qui étaient sur Wii en 480p, et là, on est sur une console qui fait, j'allais dire du 1080p, mais en vrai, sur Switch, on est plus sur du 720p. Bref, c'est pas le sujet. Et pour moi, ça ressemble plus à du remaster dans le sens où il est mis à jour pour être au standard d'aujourd'hui. Tu vois, on reprend de ce qui existe et on fait en sorte que ce soit acceptable sur un écran HD.
Après, lui, c'est facile, le portage est sur 3DS.
Voilà.
Oui, c'est vrai. Mais du coup, est-ce que ce genre de portage, à votre avis, va continuer à avoir du sens dans les années à venir avec... Enfin voilà, une fois que t'as porté ton jeu en 8K 120 FPS, Dolby 5.1...
Tu veux dire maintenant qu'on a bientôt épuisé le catalogue de la Wii U?
Alors le catalogue de la Wii U, oui. Enfin là, c'est beaucoup de portage quand même. Hein. On va quand même pas se cacher, il n'y a pas eu de grosses améliorations entre la Wii U et la Switch pour la plupart.
On n'aura pas de Wind Waker HD HD.
Je pense pas.
Super HD.
Bah oui, mais tu vois, à un moment, ça va finir par devenir un peu ridicule. Hein. Je rappelle que Prince of Persia, par exemple, les trois premiers, donc... sur ce qui était sorti sur GameCube, ils sont sortis dans une espèce de collection sur PS3 où ils étaient effectivement 1080p, 60 images par seconde, tout ça. Qui est très bien, hein, j'ai rien contre. Alors c'était pas vendu comme un remaster, c'était effectivement plus vendu comme une espèce de...
collection.
Voilà, de collection un peu mis au goût du jour techniquement, mais pas particulièrement refait, quoi.
Pour moi, c'est ça, enfin, quand on parle de remaster, je pense surtout à ça, dans le sens où c'est des jeux qui ont été mis sur de la... sur du support HD avec un peu de lissage, anti-aliasing, compagnie, pour que ce soit joli et regardable. Genre les versions HD, pour moi, c'est des remasters, en fait. Tu changes juste les boutons et compagnie, tu fais 2-3 trucs. C'est pas aussi poussé qu'un Xenoblade, par exemple. Ça, pour moi, ça reste une forme de remaster, dans le sens où tu te remets au standard de l'époque, c'est juste que tu te remets juste au standard visuel, quoi.
Alors après, il y en a qui sont plus limites que d'autres. Est-ce que Bioshock, par exemple, qui est ressorti sous forme de Bioshock de Collection, ce qui est une très bonne idée, hein, pour 30 balles les trois jeux, c'était très rentable.
Ah putain, non, mais ouais, niveau qualité-prix, ça se pose là.
Bon, il y a un bon jeu et un peu moins bien, mais...
C'est question de goût. Franchement, c'est question de goût et
je ne hasarderai pas à dire lequel est le bon et lequel est moins bon.
Et de ressenti, vous avez pas aimé le 3, mais j'ai adoré.
Ah, moi j'ai adoré le 3.
J'ai pas aimé le 3.
Moi j'ai adoré le 3 parce que ça ressemblait plus à un jeu d'action. C'est très con, hein, mais.
Bah, de toute façon, je pense qu'on va pas faire la liste de tous les jeux, à savoir si c'est des remasters ou des portages.
Non, clairement pas. Maintenant,
on peut dire que c'est pas des remakes.
C'est pas, voilà. La vraie question à se poser derrière, c'est est-ce que finalement l'initiative de Microsoft, par exemple, qui fait beaucoup de rétrocompatibilité, et qui a, par exemple, qui permet aujourd'hui de jouer à un jeu comme Crimson Skies, qui est un excellent jeu d'avion, si vous connaissez pas ça, très très bon, c'est fait piou-piou, tu peux y jouer sur Xbox. Tu peux y jouer en rétrocompatibilité sur Xbox 360, tu peux y jouer en rétrocompatibilité sur Xbox One, tu peux y jouer en rétrocompatibilité sur Xbox One Series X. Sur Xbox Series X, pardon, puisque c'est plus... voilà. Est-ce que finalement, si la PS4 avait été rétrocompatible PS3, on aurait vu autant de remaster HD et de ressorties comme ça, de portages un peu limite? Je pense à The Last of Us, par exemple. Qui a rien.
Eh bien, tu sais ce que je vais répondre, hein.
Ah non.
Non, parce que un truc rétrocompatible, ça coûte beaucoup moins cher.
Bah oui, mais ça rapporte même beaucoup moins aussi. Tu veux pas le revendre à
30 balles. Ah, tu peux pas le revendre. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié que j'étais un NCX pigeon, mais ouais.
C'est vrai. Alors après, ça demande pas d'effort, donc c'est zéro.
Moins, ça en demande beaucoup moins.
Ça demande beaucoup moins d'effort.
Un peu de testing et voilà quoi.
Enfin, quoique chez Microsoft, je pense que la section rétrocompatibilité, les mecs se cassent un peu le cul, hein, parce que c'est vraiment rajouté au compte goutte, donc ils doivent quand même tester à peu près.
Non, mais je pense qu'ils bétonnent.
Ils ont fait un gros dump pour les 20 ans de la Xbox, ils ont dit que c'était la dernière fois qu'ils le feraient.
Ah merde.
Il y a eu un gros truc, genre hier ou avant-hier, avec.
75 jeux, c'est ça 76
ouais, ils ont
jeux.
Fait beaucoup d'un coup, je crois. Ils ont dû mettre tout le catalogue qu'ils pouvaient mettre, et puis ils ont fait, allez, basta, c'est fini.
C'est quoi, les mecs se barrent chez Bethesda, ils en ont plus rien à foutre, c'est ça?
Ouais, je pense surtout que le reste ne valait pas la peine, ou ils avaient pas envie de payer les droits.
Mais par exemple, je vais poser des questions de connard, hein, mais. Dark Souls Remaster.
Bah, c'est un remaster.
Eh, tu sais ce qu'on aurait fait un remake?
Vas-y.
Bah, mettre la validation sur le bouton A.
Ah, c'est
un bâtard. C'est un gros bâtard, mais c'est vrai.
Bah, moi je trouve que de toute façon c'est plus intéressant d'avoir la rétrocompatibilité. Il y a un truc que les joueurs PC relevaient souvent à juste titre. Bon, c'est peut-être pas toujours vrai, mais des jeux sortis sur PC il y a une dizaine d'années, tu peux encore y jouer avec ton PC actuel.
Alors, pas tous, mais la grande majorité, oui.
Alors, il y a 10 ans, ça va être oui. Si je te dis 20 ans, ça va être
plus compliqué. Ouais.
On est d'accord. Le truc, c'est que c'est un jeu qui est sorti il y a 10 ans sur console. Tu peux pas y jouer avec une console actuelle généralement.
Alors ce sera peut-être pas le cas dans 10 ans, puisque en fait il y a eu une cassure à un moment aussi entre la génération justement Xbox, GameCube, PS2 et la génération d'après, c'est que tout le monde a changé radicalement d'architecture.
Ouais, pour en faire des PC, hein.
Il y a jamais eu trop de règles sur la rétrocompatibilité, c'est-à-dire genre par exemple Sony PlayStation vers PlayStation 2 c'est rétrocompatible, alors que Nintendo c'est pas le cas. Bon, là c'était carrément un changement de support, donc c'était compliqué. Ensuite Nintendo, ben GameCube vers Wii faisable, Wii vers Wii U faisable, mais Wii U vers Switch t'oublies.
Wii U vers Switch t'oublies, bah oui non mais c'est il y a jamais eu de règle, on est d'accord, mais
et GameCube vers Wii U pas possible, alors que en fait tu pouvais faire tourner les jeux GameCube quand même.
Ah si tu peux le faire. Pas officiellement.
Non, je te parle d'officiel.
Officiel, oui, non.
Mais
officiel.
Sony, du coup, PS2 vers PS3 faisable que sur la première génération de PS3, puisque les suivantes, ils l'ont retiré. Et PS3 vers PS4, pas possible.
Mais est-ce qu'ils ont pas cassé un truc, justement, au moment où ils ont dit PS3 vers PS4, pas possible? Parce que c'est peut-être là où t'as commencé à voir fleurir ce genre de choses-là.
Disons qu'il y avait, en 2013, t'avais The Last of Us qui sortait, 6 mois plus tard, t'avais la PS4, et 6 mois plus tard, t'avais The Last of Us Remaster qui sortait.
Donc, ouais, voilà, c'est quand même compliqué.
Non, puis Sony, c'est le cas particulier, quand ils ont sorti la PS4, ils avaient leur système de cloud qui balbutiait, et il me semble que leur projet, c'était de rendre jouable sur PS4 des jeux PS3 à travers
avec
un service, ouais, c'est ça.
Bah, qui existe toujours, hein, qui est pas du tout mis en avant, alors qu'au final, tu peux jouer à pas mal de vieux jeux, mais.
Ouais, ils ont toujours été très cons en termes de com. Mais...
Non, mais voilà, ça fait partie des trucs. Enfin, moi, j'ai l'impression que de temps en temps, il y a quand même des remasters un peu inutiles. Alors, je dis pas, c'est toujours pareil, je dis pas que c'est un truc de feignant, je dis pas qu'il y a pas un peu de boulot derrière dans certains cas, mais tu vois, le Dark Souls remaster par rapport au Dark Souls, les gens qui jouent sur PC, ça devait quand même bien les faire marrer, parce que des patchs pour faire du 60 FPS et du 1080p, ils en avaient depuis belle lurette, quoi.
Ah oui, non, mais le but, c'est de revendre Dark Souls sur PS4, Xbox One et Switch, hein.
Voilà.
Après, tu sais, je me dis, c'est le projet à pas cher, entre guillemets, qui peut éventuellement financer un projet suivant, quoi.
Ouais, je trouve ça un peu triste.
Bah, en fait, moi je parle, il y a aussi le côté, notre jeu, là, il a super bien marché, les gens en parlent de plus en plus, on va juste le mettre sur une autre plateforme histoire qu'il se revende à nouveau, quoi.
Alors, tu vois, par exemple, le remake de Demon's Souls, je trouve que ça se justifie. Parce que Demon's Souls est pas si évident à trouver aujourd'hui, il tournait pas très très bien sur PS3, donc le fait de le refaire complètement, ça avait du sens.
C'est une exclu Sony qui a mis des plombs à sortir en Europe, qui est sorti de manière très confidentielle à l'époque, parce que c'était vraiment pas le genre de jeu auquel les gens voulaient jouer à cette époque-là.
C'est avant Dark Souls de toute façon, donc c'est ça. C'est l'explosion de Dark Souls a fait que les gens sont revenus vers Demon's Souls en fait.
Bah, Dark Souls, c'est From Software qui réussit. Alors, Demon's Souls est un jeu Sony, hein, édité par Sony, fait par From Software.
Qui réussit à faire un truc qui compile, quoi.
Et en gros, Dark Souls, c'est Demon's Souls, mais on est édité par quelqu'un d'autre, donc on change le nom. Et c'est Namco Bandai qui a compris que ça allait marcher et qu'il l'a édité, quoi. Et ils ont été un peu plus malins. Et du coup, Sony, après, ils ont fait « Bon, on peut peut-être avoir un jeu genre Bloodborne, s'il vous plaît. »
Oui, c'est un peu ça. Et du coup, ma toute dernière question, avant qu'on referme ce chapitre, Est-ce qu'il y a des remasters que vous voudriez voir? Est-ce qu'il y a des jeux dont vous voudriez voir, que vous voudriez voir upscalés en 1080p, 60fps? Voilà. Je savais qu'il allait venir sur le tapis.
Et les deux Baten Kaitos.
Est-ce que les deux Baten Kaitos, ça a vraiment du sens par rapport à...
Parce que c'est des bons jeux que j'ai envie d'y rejouer.
Mais un remaster à la Xeno en refaisant les interfaces, ça serait tellement cool.
Alors le 1, faudrait revoir un peu le rythme aussi, ce serait pas mal.
Et virer le softlock.
De quoi?
Ah oui, virer la possibilité de softlock.
Après, non, la difficulté de Baten Kaitos, c'est comme tout en précalculé. Il faut qu'ils refassent tous les décors. Enfin, faut qu'ils réorgent tous les décors. Donc, s'ils ont encore les assets, c'est bon. S'ils les ont plus, ils sont la merde.
Ah, sinon, ils peuvent utiliser une IA pour les upscaler. Ça a drôlement bien marché pour GTA 3.
Ou pour Final Fantasy 9. Alors, pour le coup, Final Fantasy 9, ça n'a pas été fait officiellement. Et bien, il y a un mode qui s'appelle le Mogu Mode de mémoire de Final Fantasy 9. Donc, uniquement la version PC.
C'est sur le 9 ou sur le 7?
Sur le 9.
Sur le 9.
Le mec s'est rendu compte que le travail sur les décors de FF9 par Square Enix était nul à chier. Comme beaucoup de ce couple. Des portages portables de FF d'entre le 1 et le 9, ils ont fait beaucoup de trucs très très mal sur les textures. C'est assez visible sur les jeux Super NES d'ailleurs. Et le mec a dit mais je vais reprendre les fonds en précalculé et je vais les faire passer à la moulinette IA. Donc il l'a fait bosser pour que ça refasse bien tous les décors, que ça les réupscale et tout. Et le boulot apparemment est super propre. Je sais plus, je crois que c'était sur Gamekult où j'avais lu un article où justement le mec expliquait comment il avait fait. C'est du très bon boulot.
Alors c'est du très bon boulot parce que l'IA a fait l'essentiel du boulot et que derrière il y a quand même des gens qui sont venus recorriger des trucs.
Oui, bien sûr.
Ce qui n'est pas le cas sur GTA 3 hein, où ils ont dit bon, elle a passé la moulinette de l'IA, elle a fini, parfait, compilez-moi ça vite fait.
Alors le plus drôle d'ailleurs avec ces histoires, il y a pas mal de petites comparaisons qui traînent sur le net, mais dans GTA, alors je sais plus lequel, t'as un diner dont l'enseigne c'est un gros donut avec à côté un écrou. Bon, il y a une blague dans le nom que j'ai oublié. Et en fait, l'écrou est devenu devenu un cercle avec l'IA qui a tout smooth.
Oh merde.
Donc, c'est ridicule. Du coup, la blague ne marche plus.
C'est ça. Mais t'as plein d'autres trucs aussi dans les textures où il y a des mots qui ont été mal traduits, où il y avait écrit gearbox et ça a écrit beerbox. Parce qu'il a mal lu le G.
On y gagne, hein, je pense.
Je suis pas certain. Mais t'as des tas de conneries comme ça. Donc c'est sûr que ça sent le. Je vous donne une semaine pour faire un remaster. Vous prenez la version mobile, démerdez-vous, vous upscalez tout ça à l'arrache. Vous mettez du. Faut mettre du per pixel motion blur, donc vous en mettez. Faut mettre de l'ambient occlusion, donc vous en mettez. Ah, comment ça fait des lignes noires sur tous les personnages? Rien à foutre. Il y a de l'ambient occlusion. Voilà.
Non, si tu veux, alors moi, mes remakes que je veux, remake ou remaster, pour le coup, un remaster, je prendrais même un portage, un portage, c'est impossible.
F0 GX HD, je sais.
Non, il y a un X dedans, mais ce serait Xeno X.
Alors, est-ce que là, on serait dans le cadre d'un. Oui, on serait dans le cadre d'un remaster.
Un portage, un peu remaster, mais bon.
Après, c'est pas après, Xeno X navigation avec le pad. Xeno X aurait du boulot sur la gestion de la carte, justement.
Ouais. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il y aurait quand même ce serait pas juste un portage parce que t'aurais quand même un gros boulot d'interface à faire.
C'était le jeu Nintendo qui exploitait mieux l'écran du gamepad avec Pikmin 3.
C'est vrai.
Et sinon, je me dis que c'est toujours l'occasion de faire revivre des licences qu'on a un petit peu oubliées.
Dans la vidéo.
Ah le bâtard.
Au hasard.
Et j'y pensais tout à l'heure au chiottes, je me disais, comme d'hab quoi.
C'est une préparation du dojo bar bonjour. À 18h, tout le monde est allé faire caca pour préparer l'émission.
C'est ça. Mais j'y pensais tout à l'heure, c'était plus dans une réflexion Metroidvania, Zelda-like, mais qu'est-ce que je me referais bien à Soul River?
Ah, surtout que ça, c'est un jeu qui techniquement était très limité pour l'époque, enfin qui a surpassé des limitations techniques extraordinaires, mais qui du coup se retrouvait quand même à tourner un framerate un peu rachitique.
C'est ça, mais c'était tellement cool cette idée de basculer entre deux mondes et ça te modifiait la géométrie du décor.
Voilà, là il y a peut-être un petit truc à faire, effectivement. Ça fait partie des trucs où c'est un petit peu dommage.
Ouais, mais en fait, je pense que tu prends tout le catalogue THQ et ça ferait des super remasters.
Bon, ils ont déjà un peu commencé. Hein.
Oui, c'est vrai.
Ils en ont déjà un petit paquet, ouais. Parce que tu as l'ensemble des Darksiders, on nous a cité dans le chat tout à l'heure, JBC, Red Faction Guerrilla Remastered. Je kiffe THQ pour ça.
J'ai dit une connerie, Soul River c'était Eidos.
Ah, le Muguri mode, c'était ça le truc de FF9. Voilà.
Alors, Eidos, t'as un joli back catalogue hein, qui pourrait refaire hein, rien que les, par exemple, les Hitman. Je pense à Hitman 2, par exemple, qui a un style un peu particulier. Mais c'est vrai que ça, sur PC, tu pouvais y jouer avec une résolution un peu supérieure, mais sur console, t'étais limité en résolution et ça se voyait. C'est vrai que le simple fait d'aller ressortir une version avec une résolution un peu augmentée et avec des textures un petit peu retravaillées et peut-être quelques améliorations de qualité de vie, notamment les temps de chargement, les checkpoints ou des choses comme ça, c'est pareil, ça pourrait faire un gros hit. Hein. Ça, c'est le genre de truc qui pourrait drôlement bien marcher.
Mais bon, on va se retrouver avec un Balloon Fight Remaster.
Écoute.
Oh moi, putain, attends. Un Balloon Fight 99, ça je prends ça.
Ah oui. Je dis oui.
Non, ça me dit rien ça.
Ah, moi je prends aussi.
Un Balloon Fight en Battle Royale.
Il y a un truc à faire.
Ça peut être marrant.
Il y a un truc à faire. Eh bien, messieurs, je crois qu'on va se quitter.
Alors, moi, je voulais quand même terminer cette histoire avec un hommage.
Il y a deux mots de la fin, il y a Zergy et Monsieur Antix. Alors,
moi, je vais aller taper sur Konami parce qu'on ne le fait pas assez, je trouve.
Ça ne se refuse pas.
Ça ne se refuse pas.
Un remake de PES2.
Alors, Konami a fait pas mal de remasters sur PS3. Alors, il y a eu Metal Gear, il y a eu Zone of the Ender, et surtout, il y a eu Silent Hill. Et Silent Hill est réputé pour être tellement mauvais en tant que compilation que les gens disent « mais je vous dis sur PS2 ». Et apparemment, le pire est en 3 qui est moins beau sur PS3 que sur PS2. Parce que toutes les modifs qu'ils ont fait que les effets que les mecs avaient prévus pour des écrans SD et CRT ne fonctionnent pas du tout sur un écran HD.
Non mais attends, il y a pire que ça. L'équipe qui a fait ce remaster de Silent Hill, on leur a donné rien. Peau de balle. Les mecs avaient même pas les assets du jeu original, ils ont dû tout refaire.
Apparemment, Silent Hill 2 a été perdu. Hein.
Oui, attends, ça fait plaisir.
Je savais pas qu'il y avait un remaster du premier, puisque pour moi, le remake du premier, c'est le Shattered Memory sur Wii, et lui, il était très très cool.
Alors lui, il est très cool, et c'est vraiment un remake pour le coup, puisque c'est radicalement différent.
C'est ça, c'est un remake hommage façon The Thing, où il change la fin fait un clin d'œil monstrueux à l'original, en changeant l'interprétation. Et ça, c'était excellent, ça.
Alors, oui, la collection Silent Hill, c'est juste le 2 et le 3, qui étaient les jeux PS2.
D'accord.
Mais voilà, mais c'est oui, effectivement, ça fait partie des très 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 bons remakes, et qui vraiment reprennent juste les personnages et l'idée générale du 1, et changent radicalement le...
toute l'interprétation.
Retransforme complètement le jeu. Monsieur Zergy, il y avait un mot de la fin.
Oui, moi, un remaster de Sky of Arcadia, je suis preneur, histoire de le rendre plus accessible.
C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie des bonnes raisons aussi pour remasteriser un jeu, c'est quand effectivement il a été sorti à très peu d'exemplaires. Je pense à Atlus par exemple, qui est quand même très, très coutumier des petits tirages. Et le simple fait d'aller ressortir le jeu sur une console parfois juste plus populaire, je pense à Psychonauts par exemple, qui est ressorti il n'y a pas longtemps.
Faites-nous un remake 2. De Trauma Center.
Alors moi, j'ai un remake de Trauma Center, pourquoi pas ? Après tout, c'est pas... Je pense qu'il y a un truc à faire. Mais c'est vrai que rendre certains jeux qui ont acquis une espèce de statut culte au fur et à mesure des années plus accessibles, je trouve que c'est une très bonne motivation. Je pense qu'on en avait parlé en tout début de sujet. Mais ça fait partie des bonnes raisons, je pense, de remettre un petit peu de pognon en se disant... Il y a moyen que le projet lui-même soit rentable. Je veux dire, tu mets quelques devs, un petit peu de moyens pour que les mecs puissent arriver à bosser correctement, à faire les choses proprement. Mais finalement, t'as quand même beaucoup moins de moyens à dépenser qu'à refaire un jeu complet, ou à faire un jeu complet.
Bah, pour le coup, moi, c'est peut-être le genre de choses que je verrais plus dans une offre type Xbox Game Pass, avec des jeux accessibles en téléchargement et un gros catalogue, plutôt que dans le cas, en plus, de certains jeux un peu vieux, type des jeux N64. Que sur des jeux sortis à part dans le commerce. Et pour le coup, alors bon, moi je trouve que ils font pas un très bon suivi dessus. Hein. C'est mon avis, mais les offres consoles de Nintendo sur la Switch, c'est une bonne idée dans ce sens-là. On pourra reparler de l'émulation N64 un jour, qui est pas ouf, il paraît.
Aujourd'hui,
ça s'améliorera peut-être, je sais pas.
On ne sait pas encore.
S'ils comptent sur le nombre d'abonnés, ça risque d'être compliqué.
Ouais, alors surtout pour le prix où tu payes, ça fait plutôt là où est le problème en fait.
C'est ça.
Mais voilà, pour moi, c'est pas quelque chose que tu ferais avec des jeux sortis en boîte, mais plus sur une offre back catalogue portable facilement en plus d'une génération à une autre. Hein. Ce qui évite d'avoir à rebosser à chaque fois dessus.
C'est vrai que finalement, le simple fait de dire je prends le jeu PS4, je le recompile sur PS5, ou alors je le mets en mode de compatibilité et je le mets à disposition pour 5 balles, c'est du pognon gratuit quoi. C'est vraiment du.
Bah, ça peut être une offre aussi d'appel intéressante pour des gens un peu nostalgiques qui ont envie de refaire leur vieux souvenir sur une console, en plus de pouvoir faire un nouveau jeu.
Exactement, ça peut être effectivement un bon produit d'appel, un bon complément. Effectivement, tu payes ton PSN Plus et dedans, bah, t'as tous les deux mois, il y a un jeu PS3 qui est jamais ressorti autrement, qui se retrouve disponible, jouable, dans une qualité honnête, sur ta PS5, c'est le genre de truc où il y aurait des clients, je pense, sans problème. Effectivement, il y a des choses intéressantes à faire. Donc c'est à mon avis, effectivement, pas là de s'arrêter. C'est le genre de truc qu'on va encore voir pendant quelques années. Alors peut-être que ça va finir par ralentir avec les histoires de rétrocompatibilité, mais je suis pas certain que les rétrocompatibilités vont se maintenir au-delà de la PS6, PS7 et ainsi de suite.
Non, et puis au bout d'un moment, ils auront fait le tour du catalogue. Hein.
Il y a aussi ça. Après, il y a quand même des nouveaux jeux qui sortent, hein, c'est pas la majorité. Mais...
J'allais dire ça, et puis putain, grattez-vous la tête pour sortir des nouvelles idées, c'est bien aussi.
Oui, c'est faut... En fait, je pense que c'est...
C'est pas intéressant le recyclage, c'est important pour la planète.
Attendez, ne pas redesigner un jeu. Bref, non, mais je pense que les deux peuvent cohabiter en fait. C'est-à-dire que se dire. Il y a probablement des jeux, et on en a parlé là, F-Zero GX HD ou des choses comme ça, il y a des jeux qui mériteraient d'être ressortis, ne serait-ce que pour être redécouverts par un public un peu nouveau. Donc je pense que les deux peuvent cohabiter en fait. Si tu gères correctement pour moi ton catalogue, en tant qu'éditeur, si tu gères correctement ton catalogue, t'es capable d'aller faire des suites de qualité, d'aller avoir des nouvelles idées, des nouvelles IP que tu peux lancer, des nouveaux jeux que tu peux lancer régulièrement, et de temps en temps aller piocher dans le catalogue des trucs que tu peux ressortir parce que tu vas lancer une suite, parce que ça peut être aussi un outil de promo finalement à pas si cher que ça.
Oui, c'est vrai. Oui.
Et puis quand tu regardes quelque chose,
on n'a pas fini d'avoir des remakes de Resident Evil 4.
Il y a une version VR qui est sortie il n'y a pas longtemps.
Et voilà, c'est bon.
Mais pour finir avec le parallèle sur le cinéma et même sur la musique, alors c'est plus facile parce que c'est probablement, il y a moins d'histoires de programmation et c'est finalement des fichiers numériques moins lourds. Mais actuellement, si tu veux te regarder un vieux film ou écouter un vieil album, c'est très très simple avec les services en ligne. Alors que jouer à un jeu vidéo qui a plus de 10 ans, c'est beaucoup plus compliqué.
Exactement. Bah, ça fait partie de la difficulté, mais parce que le média n'a pas les mêmes spécificités non plus.
Il n'est pas aussi standardisé aussi, du coup. Parce que exactement. D'une console à l'autre, tu as des subtilités de programmation, le motion engine, tout ça.
Ouais. J'aime bien le parallèle avec la musique, quoi. Est-ce que Call of Duty est une cover de Medal of Honor?
C'est peut-être un truc.
Est-ce que Call of Duty 4 est une cover de Call of Duty 5?
C'est pas gentil. Bref, on va se quitter là. Nous allons nous retrouver dans 2 semaines. Nous serons au mois de décembre.
Et déjà?
Ouh, déjà.
Nous serons à l'hôpital.
Non. Non, on espère que non. On sera
moi,
confinés.
Peut-être oui. si j'ai chopé le Covid ce soir ou pas.
Ah non, faut pas faire ça.
Moi, j'espère que ça me casserait les couilles.
Moi aussi. Nous aussi, ça nous casserait les couilles. Il faut quand même
3 point hospital.
C'est ça. Une épidémie de Covid éclate. Ah, oh, putain. Bref. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Du coup, peut-être qu'on parlera de Wii, puisqu'elle a 15 ans.
Et donc, de recyclage.
Et donc, on fera un remaster de l'émission Wii qu'on avait faite il y a... Non, je crois qu'on n'a jamais fait d'émission pour
ça va être un remaster de l'émission GameCube, hein. Ce sera une émission GameCube boostée.
Voilà, mais ce serait peut-être pas inintéressant d'en reparler un petit peu. Voilà, je lance l'idée, je sais pas si c'est ce qu'on fera. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment, on fera la dernière émission, mais on fera un grand récapitulatif de toute l'année qui se situera aux alentours du...
mi-décembre.
Voilà, 16 ou 18 décembre. Entre le 16 et le 18 décembre, je sais pas quel mercredi ça va tomber, mais ça va être quelque part par là.
Le 15.
Probablement.
Puis le milieu, putain.
Sauf si tu veux faire ça le 22.
Non, le 22 ça fait un peu tard. Ça fait un peu tard. Donc voilà, dans 2 semaines, peut-être de la Wii, parce que pourquoi pas, sauf si on a un petit sujet d'actu un peu intéressant qui tombe, mais j'ai un petit doute.
Oui, vous sentez qu'on n'a pas beaucoup d'idées en ce moment.
Vous sentez qu'il n'y a pas beaucoup d'actu en ce moment.
Donc émission le 15, c'est ça?
Oui, je pense.
Direct le 16.
Putain, il m'énerve.
Mais ce sera pas avant janvier le tirer. Ah merde, ils peuvent le faire.
Ils peuvent le faire.
Direct de Noël.
Le direct de Noël, ce serait beau. Bref, en tout cas, on vous fait des gros bisous, on vous dit à dans 2 semaines. Ciao tout le monde.
Ciao.
Bisous.